do you want with me?
I bet you think it's funny.
Stringing me along. Oh. And what did I do to you to deserve this? You treated me so wrong.
J'arrive dans une seconde, les amis, je suis en train de regarder quelques dernières infos et je suis à vous. À tout de suite. J'arrive. Allez, on y va. 3, 2, 1. Et bonjour à tous, quelle heure il est? 10h08, c'est un petit peu tard pour lancer une matinale, désolé, je suis rentré vite pourtant de la matinale de France Info, je ne sais pas ce qui m'est arrivé en chemin, passage par la boulangerie, pour acheter un petit pain pour mon petit dernier Solal qui est à la maison puisqu'il n'est pas encore scolarisé, et puis j'ai traîné, on a fait un câlin, et puis voilà, le temps de démarrer le setup, et voilà, je suis passé de 9h15 à 10h08, désolé. Vous allez bien vous? Allez, je lis un petit peu vos petits messages de bonjour, c'est très gentil. Je remercie Mathieu Lerouzic pour ce 16e mois d'abonnement, ça commence à faire tous les deux, merci Mathieu. Delphi pour ce 11e mois. Joe, mon ami Joe, que je vais retrouver pour notre joli stream du vendredi soir, l'hebdo Étienne demain à la maison. Et aussi pour notre stream de samedi soir 20h en direct du Muséum de Bordeaux avec l'ami... Oula, le joli raid de Naotech Team à l'instant, c'est gentil. Avec Jamy Gourmaud qui sera avec nous en direct du Muséum de Bordeaux. Réservez votre soirée, il n'y a pas foot. Vous n'avez donc que ça à faire samedi soir 20h. Voilà, je suis tellement distrait que j'aurais pu caler ça le lendemain en pleine finale du Mondial, mais coup de bol. J'ai fait ça la veille. Insect Subtil 84, j'aime bien ton pseudo et je te remercie pour le 8e mois d'abonnement. The Voyageur, merci pour ce 12e mois d'abonnement. Et je remercie donc les amis de Naotech Team, cette magnifique chaîne Naotech sur YouTube et sur Twitch, toute l'actualité de la tech. C'était qui ce matin à l'antenne? C'était Jérôme. Salut Planetscape Sigil et merci pour le 4e mois d'abonnement. Qui était en direct ce matin sur Naotech pour vous donner toutes les infos? C'était qui? C'était Guillaume. Merci Guillaume. Merci beaucoup du raid, c'est super gentil. Super gentil. Guillaume et Flonflon me précise What Knows. Formidable. Alors, je vous lis un petit peu. Et puis, je vais vous raconter ce qu'il y a dans les journaux ce matin. Wasp, est-ce que tu donneras des nouvelles sur Twitter si jamais tu as une dispo pour un café avec des viewers bordelais samedi après-midi? Oui. Alors évidemment, avec Joe et avec Jamy, on va avoir plein de choses à préparer samedi après-midi. On arrive samedi à la mi-journée à Bordeaux. Pour que ce stream qu'on veut vraiment le plus beau possible en termes d'image et de son dans ce très bel endroit avec Jamy soit vraiment au top. Donc on va d'abord s'assurer que tout est ok au niveau de la connexion, de la qualité du son, de l'image grâce à Joe. J'échangerai avec les équipes du musée aussi pour voir sur le fond ce qu'on peut vous proposer de mieux. Et une fois que c'est fait, si je vois que c'est un petit peu de temps, évidemment, on essaie de se caler un petit café. Ce serait drôle de se retrouver à plusieurs centaines dans un café de Bordeaux. Ce serait drôle, sympa comme tout. Moi, et pourquoi pas, je sais pas, le lendemain matin pour un petit déj, sachant que je repartirai sur Paris pour retrouver ma petite famille, bien sûr. Il se passe pas grand chose au boulot en ce moment, tu égayes mes matinées. S'il se passe pas grand chose au boulot, c'est tant mieux, hein. C'est bien d'avoir des journées un petit peu tranquilles aussi, notamment à l'approche des fêtes. Waouh, c'est quoi cette avalanche de subs? Merci, vous êtes trop gentil. Lulu vient de prendre un 9e mois d'abonnement. PB Monster Geek, un Prime. Lodi 16, un 8e mois d'abonnement. Merci avec toi, c'est super gentil. Pas trop fatigué en cette fin d'année? Si. Nat pose la question. Si, crevé, mais comme tout le monde. Hein. C'est un grand classique. Mon téléphone aussi est fatigué, je le mets à charger. C'est un grand classique. Alors après, c'est la magie de l'antenne, que ce soit à la télé ou ici. Tu peux arriver vraiment bien fatigué. Puis quand le rouge de la caméra s'allume, et que tu sais que tu vas retrouver un exercice que tu aimes bien, que ce soit la matinale de France Info ou le stream avec vous, bah, la fatigue elle s'efface. Mais oui, ça tire dur quand même un petit peu, quoi. Mais je pense qu'on est tous dans ce cas-là un petit peu. Hein. Voilà. Merci 73 Jérôme 22 pour le 2e mois d'abonnement. Merci Wasp pour l'abonnement que tu offres à la Commu et Switch Off pour le 15e mois. Merci à tous les trois. Et je vois donc qu'il y a des Bordelais puisque Wasp semblait me parler de Bordeaux. Comment ça, il y a Miss France? Il y a Benjamin qui me dit qu'il y a Miss France. Samedi soir. Il y a Miss France, c'est ça? Vous me le confirmez que samedi soir il y a Miss France à la télé? En même temps, j'ai l'impression que on s'adresse pas, peut-être pas au même public. Il y a des gens qui peuvent me confirmer un qu'il y a Miss France samedi et des gens qui vont préférer deux regarder Miss France. C'est quoi? Ce sera sur TF1, c'est ça? Plutôt qu'un stream au Muséum de Bordeaux avec le génial Jamy Gourmaud. En vrai, confirmez-moi pour le concours de Miss France. Pourquoi Jamy? Pourquoi Bordeaux? Pourquoi pas Alfred? Alfred, il a plein de questions. Pourquoi Jamy? Pourquoi Bordeaux? Alors, pourquoi Bordeaux? Bah parce que j'ai fait trois streams dans des musées à Paris. On a fait la Fondation Louis Vuitton, magnifique, la collection Morozov. On a fait le Louvre, excusez du peu quoi, le Louvre privatisé juste pour nous. On a fait le musée d'Orsay dans les mêmes conditions. À un moment, on se dit, eh oh, il y a plein de magnifiques musées en région, donc let's go quoi. Et puis, un des premiers avec qui j'ai échangé, c'est Bordeaux. Il y en aura d'autres. Pourquoi Jamy? Parce que c'est un muséum sur la nature notamment, hein, science et nature, et qui réfléchit sur la place de l'homme dans l'environnement. Voilà. Donc Jamy, avec son immense curiosité scientifique, je me suis dit que c'était juste l'invité parfait. Voilà, Alfred, question-réponse. Merci Victor pour le raid. Merci Maître Gobelin pour le quatrième abonnement. Vous êtes trop cool. Romo One, merci pour le Prime à l'instant, c'est super gentil. Moi, c'est le Covid qui me fatigue. Oui, on a une rem... il y a Kalindi qui a chopé le Covid. Il y a une remontée des cas de Covid. Protégez-vous bien, hein. On a un gouvernement qui a pas envie de réimposer le masque, alors qu'il y a beaucoup de médecins, d'épidémiologistes qui disent qu'on devrait le remettre, hein, le masque. Donc voilà, protégez-vous au maximum. Et puis, si vous souhaitez le faire, il y a la quatrième dose qui est disponible pour tout le monde, même si tout le monde ne le sait pas en fait. Voilà, le gouvernement n'a pas tellement communiqué là-dessus. Tu commences à quelle heure le matin en général? Je me lève à 2h baboune et puis j'enchaîne, j'arrive à la France Info à 3h. Voilà. Tarla Fifi nous donne des nouvelles d'une streameuse que j'aime beaucoup, qui est une passionnée de théâtre, qui s'appelle Mademoiselle Sony, que j'ai raid déjà, que j'ai reçue à la maison ici dans l'Hebdo Étienne. Et qui justement avait sa pièce de théâtre qu'elle a écrite, qui était à Paris. Et donc je vois que Tarla Fifi est allée voir la pièce. Voilà. Ça s'est interrompu plus tôt que prévu, je crois. Mais tu me dis que la dernière représentation, la salle était remplie. Je suis bien content pour elle. Et puis vous reverrez bien sûr Mademoiselle Sony sur cette chaîne, puisque j'espère qu'on refera des trucs ensemble. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc il y a bien Miss France samedi. Ouais. Alors on est d'accord que. Je pense que pour vous, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais je vous imagine pas, je vous imagine pas des masses devant Miss France samedi soir. Peut-être que je me trompe. On fait un sondage. Alors, je vais vous donner le choix. Alors, que choisissez-vous? Vous me faites pas plaisir, hein, sincèrement. Que choisissez-vous samedi soir? Voilà, le concours Miss France, stream au musée, ou alors, évidemment, la vie ne tourne pas autour de TF1 et de Papy Sam, autre projet, bien sûr. Peut-être ça qui va gagner d'ailleurs. Que choisissez-vous pour samedi soir? Miss France, stream au musée, autre projet, et je ne sais pas pour ceux, on n'est que jeudi, hein, qui n'ont pas encore de projet pour samedi soir, c'est parti. Le Louvre Lens, tonton Asmo, tu as raison. Clairement, un truc où je voudrais aller me promener, c'est sûr. Ok, bon, vous semblez préférer dans vos réponses, en tout cas, Jamy à Miss France. Ok, je suis assez d'accord avec le truc. Ibra B52, salut Sam, j'ai bien aimé tes échanges avec Papsan hier soir, c'était un régal. Écoute, moi aussi, je me suis régalé avec Papsan. Et je suis très content de ce stream. Tu vas dormir à quelle heure? Bah, j'irai faire une petite sieste là tout à l'heure. Je dors 2-3 heures. En général, je dors 2-3 heures avant d'aller à la France Info. Et quand j'ai de la chance, 2-3 heures après. Sauf les journées où j'ai beaucoup de travail, ou dans ce cas-là, je me contente de ma sieste, ma première sieste. Voilà. Pleine forme, pleine forme, pleine forme, pleine forme. Ouais, je vous lis un petit peu. MMG ne regarde plus les Miss, mais la regardez. Ok. CCM a un trial, départ 21h. Bah, c'est bien mieux, tu as raison. On met Miss France en fond sans le son, on regarde Papy Sam sur l'ordinateur, j'achète le concept, Nat. Bouffe avec des amis. Stream-tu ce soir? Non. Non, je stream ce matin. Non, ce soir, c'est dîner avec mon amoureuse. Dîner avec mon amoureuse. Par contre, demain, l'hebdo Étienne. Je vais vous montrer la belle affiche de l'hebdo Étienne de demain soir, vendredi, parce que c'est un peu paradoxal d'ailleurs. Tenez. Juste avant, je vais quand même aller voir le résultat du sondage que voici. Tac. Et tac. Qu'est-ce que ça donne? Alors, vous n'êtes que 7% a priori à penser à regarder le concours de Miss France ce samedi, vous n'êtes pas très nombreux. 36% à être bien tenté par ce stream au Muséum de Bordeaux avec Jamy Gourmaud et avec Papy Sam, et on sera accompagné par des guides, des conservateurs du musée, on va se régaler. Voilà, c'est un chouette endroit, hein. Moi que j'ai déjà visité en prévision bien sûr de ce stream de demain de samedi soir. Je ne sais pas à 16%, on est que jeudi, vous n'avez pas encore de projet. Ok. Et Autre projet 41%. La vie ne se résume pas à TF1 et à Twitch, ou en tout cas à la chaîne de Papy Sam. On est bien d'accord. Voilà pour le sondage. Tiens, je vous parlais de l'émission de vendredi. Alors, voyons. Je vous rappelle que c'est Papy Sam qui fait ses visuels lui-même. Avec Canva, j'ai l'impression qu'au fil des visuels, je m'améliore un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'exposition Étienne Muséum de Bordeaux. À gauche, Sam. À droite, Jamy. En direct, samedi 17 décembre, 20h, 23h. Un musée, rien que pour vous. Voilà. Ça s'améliore un petit peu les visuels ou pas? Vous validez? Ça va un petit peu mieux ou quoi? Et voici l'autre visuel, cette fois pour l'émission de vendredi, de demain soir, l'hebdo Étienne. Ça s'améliore un petit peu. Plus ça va, plus les visuels sont de qualité. Oh, ça me fait plaisir. Alors ça, c'est demain. Alors c'est un peu paradoxal, parce que vous savez que vous êtes sur la chaîne de quelqu'un qui a décidé, dans ses revues de presse sur Twitch, de ne pas vous parler des matchs du Mondial. Des matchs, hein, du Mondial, oui. Les aspects économiques, sociaux, environnementaux, droits de l'homme, bien sûr, il y a toute une actualité, et politique d'ailleurs, autour du Mondial qui est très intéressante. En revanche, j'ai choisi, à titre symbolique, même si ça n'a pas beaucoup de conséquences sur l'événement, bien sûr, de ne pas vous donner les résultats des matchs. C'est ma façon de signifier que ce Mondial n'est pas un Mondial comme les autres, avec tous les reproches qu'on peut lui faire. Et donc, j'enlève la petite souris sur la joue de Cécile, vous avez raison. Et donc, comme je suis un homme de paradoxe et que j'aime bien discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, eh bien, j'ai invité des passionnés de sport, exprès. Donc, on va avoir, vendredi soir, une 100% sport avec Yoann Rioux, journaliste de l'équipe, qui est un dingue de football. Alors, le boycott, ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête. Hein. Donc, c'est ce qui m'intéresse, bien sûr. Cécile Gray, qui est une passionnée de sport aussi, notamment de football, mais qui est la grande spécialiste du rugby à France Télévisions. Et puis Sébastien Thomas, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est un journaliste de France Info que j'aime beaucoup, qui est un collègue et qui est un grand passionné de sport aussi. Voilà. Donc, moi, je veux aussi donner la parole à ceux qui sont pas forcément pro boycott, quoi. Et donc, je les ai invités à la maison. Peut-être qu'on va avoir des surprises. Hein. Peut-être que certains d'ailleurs sont passionnés de sport, mais ne regardent pas les matchs. Bon, pour Yoann Rioux, je pense pas, quoi. Voilà. Donc, ça peut sembler paradoxal, mais l'idée, c'est aussi d'échanger entre personnes qui ne sont pas d'accord. Il faut que j'envoie un message. Excusez-moi. Attendez.
Oui, je l'ai faite. Point. Puis-je te l'envoyer à 13h ou en as-tu besoin maintenant pour l'interrogation?
Un truc de boulot important. Oui, je l'ai faite. Excusez-moi, c'était une petite. Un petit message de bonnes fêtes de fin d'année aux téléspectateurs de France Info que je devais enregistrer ce matin. Je l'ai faite mais je ne l'ai pas envoyée, donc je demande à la question si c'est urgent ou pas, auquel cas je devrais vous laisser 2 minutes le temps de l'envoyer. Voilà. Ok. Ok. Bon, voilà pour la proposition de ce week-end. Et puis dimanche, peut-être qu'on fera un petit stream dimanche en fin de journée de revue de presse. Bon, ça, verra. Voilà pour le programme de ce week-end qui est un peu chargé quand même. Je vais remercier les derniers subs. Je vais remercier Clairette de Die. Comment vas-tu? 16 mois déjà. Encore une petite contribution pour le Soulage, mais c'est très gentil. Parce que c'est vrai que je dois m'acheter un tableau de Soulage quand j'aurai plein de sous. Merci Almartage pour le 16e mois également. Ça, c'est ceux qui sont là depuis le début. Pas de la création de cette chaîne, parce que dans quelques jours, le 18, je crois que ça tombe dimanche, on va fêter les 2 ans de cette chaîne. Mais vous savez que j'ai d'abord ouvert la chaîne et puis j'ai ouvert les subs après, en fait, dans un deuxième temps. Voilà. Julio Franchut, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 15e mois. Rowoman, merci pour ton Prime. Très bonne question de OQJPEG qui me demande: Sam, si jamais la France décroche une 3e étoile, ce que je souhaite, hein, est-ce que tu n'as pas peur de regretter d'avoir raté ça dans quelques années? Non, alors moi je sais que je passe à côté d'un grand spectacle, d'un magnifique spectacle de football, en vrai, sportivement, j'insiste sur le mot sportivement, ce mondial c'est une dinguerie, quoi. De voir des grands favoris chuter au cours de la compétition, des grandes équipes comme l'Angleterre, comme le Brésil, comme le Portugal, de voir de très belles surprises sportives avec la Corée du Sud, avec le Japon, avec évidemment les Marocains. C'est formidable de voir pour la première fois une équipe du continent africain, une équipe arabe arriver dans le dernier carré, c'est juste magnifique, quoi. Et puis là, effectivement, je vais aller jusqu'au bout et je vais me priver également de cette finale, pardon, hein, de rêve, même pour quelqu'un qui n'est pas passionné par le foot, quoi. Entre deux équipes qui ont déjà deux étoiles sur le maillot, deux grandes équipes de l'histoire du football, Argentine, France, avec des joueurs incroyables de chaque côté, Messi, Mbappé. Donc c'est. Eh ben oui, mais il faut que je sois logique avec moi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pour des raisons symboliques, j'ai décidé de, un, ne pas vous donner les résultats sportifs au quotidien, sur Twitch, sur France Info, c'est autre chose, c'est pas moi qui dessine la ligne éditoriale, bien sûr. On en a parlé avec France Télévisions, ils sont cool là-dessus. Et deux, de ne pas regarder les matchs, parce que je peux pas avoir cette position-là sur ce mondial sans l'assumer à titre personnel, eh ben du coup, je vais au bout de ma logique, quoi. Donc oui, ça me coûte un petit peu. Mais ouais, il faut être cohérent par rapport à ses idées, quoi. Donc, bah, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'aurais préféré voir les Marocains en finale. Ça aurait été original, dit Kletos Bright. Ça aurait été formidable pour le peuple marocain, bien sûr. Mais voilà. Moi, je disais, bon, quel que soit le vainqueur, ça allait être une belle finale parce que ça va être très, très beau, quoi. Voilà. Allez, encore un des messages et puis envoyez tranquillement. Avec une revue de presse 100% zéro mondial ce matin. Alors, quand on parle d'actualité, il ne faut pas déformer l'actualité, parce que c'est là où en fait on peut plus parler. C'est-à-dire qu'ici, on peut se parler, y compris quand on n'est pas d'accord, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'actualité, mais à un moment, il faut être rigoureux dans sa démarche. Intellectuel. Comme par exemple 213 Lorb écrit: Vous cautionnez l'emploi de sans-papiers dans les JO de Paris, par contre, pour cautionner un mondial historique et organisé pour la première fois dans un pays arabe, là, bizarrement, non. Bon, je te reprends pas sur les parties passées parce que l'orthographe, on s'en fout sur Internet, mais en fait, tu postules que je cautionne l'emploi des sans-papiers dans les JO de Paris. Chose dont on a parlé déjà ici et que j'ai dénoncé à plusieurs reprises. Donc, tu postules quelque chose que tu ne. Dont tu n'es pas sûr, voire même tu sais que je l'ai dénoncé, mais du coup tu mets un mouchoir dessus parce que sinon ta démonstration ne marche plus. Tu postules que je cautionne l'emploi de sans-papiers sur les chantiers des Jeux Olympiques de Paris pour dire qu'en revanche je ne cautionne pas un mondial qui est historique. C'est vrai que c'est un mondial qui a un caractère historique et organisé pour la première fois dans un pays arabe, bizarrement. Tu vois, tu tritures un peu la vérité pour faire passer ton message. Or, il se trouve que moi j'ai parlé et dénoncé l'emploi de personnes sans-papiers sur les chantiers des Jeux Olympiques de Paris. C'est une honte que des entreprises publiques fassent appel à des entreprises, c'est un système de sous-traitance, hein, sans vérifier effectivement qu'il n'y a pas des personnes sans papier pour travailler, souvent en plus dans des mauvaises conditions, à très mauvais salaire sur ces chantiers qui doivent construire les infrastructures pour les Jeux de Paris. C'est juste une honte. Donc, un, j'en ai parlé, je l'ai dénoncé. Et deux, le problème de ce mondial qui, effectivement, historiquement, est le premier à se tenir dans un pays arabe, et j'aurais voulu m'en féliciter, il. Et ça, tu n'en parles pas dans ton message, c'est là où tu ne vas pas au bout de ton raisonnement, et c'est pour ça que ça l'affaiblit en fait. Tu oublies de dire que ce mondial, au Qatar, qui est effectivement le premier dans un pays arabe, il cumule tout, quoi. Il coche toutes les cases qui ne vont pas. Alors, c'est reparti pour la liste, hein. On l'aura répété à peu près 1 milliard de fois ici. Droits de l'homme, droits des femmes, droits des minorités LGBT. Centaines ou milliers de morts, les bilans divergent sur les chantiers pour construire ces stades. C'est du jamais vu, il n'y a pas un seul mondial dans le monde qui s'est construit avec le sang d'autant d'ouvriers. Aucun, aucun, aucun. Tu peux chercher tout ce qui s'est passé en Russie, en Chine. Personne. Et puis, c'est l'addition de tout ça, bien sûr. Après, il y a la question environnementale, hein, avec la question des stades climatisés à ciel ouvert, notamment des navettes, des avions autour du pays, etc. Bon, ça fait déjà 5. Et après, il y a les soupçons de corruption très, très forts quant à l'attribution de ce mondial. Donc, on est à 6 et 7. Corruption, dont on vient d'apprendre un nouveau volet avec les centaines, les valises et les sacs remplis de centaines de milliers d'euros, on ne sait pas combien au total, qui ont été découverts dans des valises, dans des sacs d'élus européens au Parlement de Strasbourg. Et on sait aujourd'hui que c'est de l'argent venant du Qatar pour que ces élus européens disent du bien de ce mondial au Qatar à la tribune du Parlement européen. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, loin de moi l'idée de ne pas parler des sans-papiers des JO de Paris, j'en parle d'ailleurs, mais peut-être que tu n'es pas là tous les jours, mais c'est juste qu'à un moment, la liste, elle est trop longue pour le Qatar. Et moi, je trouve formidable qu'enfin, on ait confié à un pays arabe l'organisation de ce mondial, mais moi, quitte à aller sur un pays arabe ou un pays du continent africain, pardon, mais des vraies nations de football, des vraies nations passionnées par le football arabe ou sur le continent africain, il y en a plein d'autres qui cochaient moins de cases négatives, quoi. Tu veux un beau mondial dans un pays arabe ou sur le continent africain ? Bah donne-le au Maroc, hein, qui a été candidat aussi à ce mondial. Et pas à un pays, pour le Qatar, qui n'a eu ce mondial que pour une seule raison, l'argent. L'argent, décision de la FIFA, quoi. Donc, tu vois, moi je veux bien discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais encore faut-il que dans ton raisonnement, tu ne tronques pas des choses, tu n'enlèves pas des choses, quoi. Sinon, bah, du coup, le raisonnement, il est affaibli, quoi. Sénégal, Cameroun, hein, tous ces pays-là. Moi, je ne boycotte pas parce que c'est un pays arabe qui l'organise. Je trouve ça formidable que ce soit un pays arabe. Mais pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, ça, mais si t'avais écouté ce stream déjà plusieurs fois, ce qui ne semble pas être le cas, tu saurais déjà, tu connaîtrais déjà tous mes arguments et du coup, tu n'aurais pas écrit ça. C'est Reste. Il y a Cécile qui dit « Je vous laisse car j'ai peur qu'on parle encore que du foot dans ce live. » En fait, je vais vous parler de tout sauf du foot ce matin. Merci Shinji Sensei pour le message et pour le 6e abonnement. Ah putain, il y a Lord. Je viens de mettre Lord dans la sauce, comme j'ai parfois tendance à m'énerver, alors que Lord répondait à un commentaire. Je suis désolé. Lord t'a pris pour l'autre. Je suis désolé. Pardon. Pardon, Lord. Ok, alors c'était pour l'autre. Désolé. Ok, bon, comme je vous le disais, c'est une revue de presse où on va pas parler de football du tout, puisque je pense que vous êtes au courant du résultat d'hier. Et de l'affiche du match de dimanche, donc je vous ai mis d'autres choses de côté. Je vais remercier IbraB52 pour les bits, Guillaume13 pour le 16e mois d'abonnement, Lamargo pour le 15e mois, et pour le gentil message, The Voyageur pour les bits, Shinji Sensei, je te remercie à nouveau, Black Knight aussi, 103, merci pour le 4e mois, Nefilim, merci pour l'abonnement offert à la commu. Désolé, Lord B encore, qui a pris cher pour l'autre. On y va ? Vous êtes prêts ?
Alors,
est-ce que vous êtes prêts pour un petit sommaire ? Prêts pour un petit sommaire ? Pour vous dire de quoi on va parler ? Merci Nouche Production TV pour le gentil message. Bon. Let's go ? Allez, ok.
Bon,
alors il y a des journaux, je ne vais pas vous parler ce matin. Merci Lamargo pour l'abonnement offert à la commu. Allez, c'est parti. Allumage de la caméra Zenithal. Caméra qui nous filme d'en haut, est-ce qu'elle marche ce matin? Et paf, ça marche. Ok, donc on parlera pas du Parisien qui est à fond sur le match d'hier soir. On parlera pas de l'équipe, c'est une très belle une qui est à fond sur le match d'hier soir. On parlera pas du Figaro qui est une très belle une mais qui est à fond sur le match d'hier soir. Et puis évidemment, j'ai lu toutes les pages intérieures et j'ai pas trouvé d'autres dossiers qui m'intéressaient dans ces trois journaux qui sont pourtant trois journaux que j'aime beaucoup. Du coup, je vais vous parler plutôt de Libération, voilà, qui fait un gros dossier sur la réforme des retraites, pourquoi les Français n'en veulent pas. C'est Libération qui a commandé un sondage à l'Institut Via Voice, je crois, ouais, Via Voice, et qui indique qu'on a une grosse majorité de Français qui ne veut pas de cette réforme des retraites, notamment de l'allongement de la durée légale de départ à la retraite. Voilà. Donc on lira les résultats de ce sondage. Qu'est-ce que dit ce sondage? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres pistes que celle de l'allongement de la durée du travail pour sauver, comme le dit le gouvernement, le système de retraite, à supposer qu'il doit être sauvé. Donc au-delà du sondage sur ce que pensent les Français de cette réforme, il y a est-ce qu'une autre solution est possible. David dit, c'est dommage de ne pas parler de la victoire de la France et de sa qualification, c'est le sujet qui rend joyeux tout le monde. Tout le monde en parle tellement, mon David, tous les médias, que franchement, tu n'as pas besoin de moi pour te réjouir, c'est partout, sur toutes les chaînes, toutes les radios, tous les sites internet d'actu. Donc en vrai, on est pas obligé. Je vais vous donner le reste plutôt. Il y a un double dossier dans l'Humanité qui est très intéressant. Là, on parlait d'inquiétude sociale par rapport à la réforme des retraites en France. Au Royaume-Uni, il se passe quelque chose aussi d'important. C'est un mouvement inédit des infirmières britanniques qui n'ont pas fait grève depuis un siècle. Et là, il y a d'énormes tensions sociales au Royaume-Uni, pas seulement du côté des infirmières. L'Humanité nous explique pourquoi. Et alors, le dossier que j'ai trouvé alors fascinant ce matin, et j'ai envie de dire, moi, le dossier qui m'a le plus intéressé ce matin, c'est ça. C'est le rêve chinois qui ne séduit plus les jeunes chinois, hein, faut comprendre. C'est un mouvement qui s'appelle Tangping, qui s'appelle Restons couchés. C'est drôle d'ailleurs parce que c'est un mouvement qui part d'un jeu vidéo. Je me demande si ça part pas de joueurs de League of Legends. C'est assez étonnant. Qui est né avec le Covid et qui met en cause le modèle de développement chinois, révélant le mal-être des moins de 30 ans. C'est passionnant. Cette jeunesse qui s'éloigne du rêve chinois. Les mobilisations contre la stratégie zéro Covid ont mis en lumière le mal-être des jeunes chinois. Depuis 2 ans, le mouvement Tangping Restons couchés essaime en Chine et remet en cause le modèle de développement. C'est passionnant. Voilà. On lira ça tout à l'heure. Donc ça, je vous mets de côté. Libération Luma. Dans la Croix. Il y a un dossier. Alors, j'ai pas eu le temps de mettre du jaune fluo parce que j'étais à la bourse ce matin, mais je l'ai quand même lu pour vous. Et donc, je pense que je retrouverai l'essentiel. C'est l'histoire du bouclier tarifaire. Vous savez que en France, les consommateurs d'électricité, de gaz ont été protégés, bien plus protégés que nos voisins européens, au niveau de la flambée des prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité, par ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. En tout cas pour ceux qui avaient opté pour ce qu'on appelle le tarif réglementé, parce que les gens qui étaient partis à la concurrence du privé, ils l'ont pris plein pot. Je ne sais pas si dans le chat, il y avait des gens qui avaient des abonnements hors EDF ou GDF au tarif réglementé, qui étaient partis à la concurrence moyennant quelques euros d'économie. Bon, ben, je pense que là, ils doivent un petit peu regretter leur move. Donc on va se pencher là-dessus, parce que le problème de ce bouclier tarifaire, c'est que eh bien, il va bientôt disparaître pour partie et les tarifs vont augmenter. Donc ce dossier de la Croix, c'est de savoir ce qui va se passer au niveau des tarifs d'électricité et de gaz dans les prochains mois. Voilà. Et puis, dans l'opinion, deux choses. Alors il y a un truc qui est passé quasiment inaperçu, c'est l'histoire de la fusion nucléaire. Il y a eu une expérience, je crois aux États-Unis, on ira vérifier, de scientifiques américains, voilà, du Lawrence Livermore National Laboratory, sur la fusion nucléaire, avec pour la première fois, d'après ce que j'ai compris, l'énergie produite par l'opération a été supérieure à ce qui a été engagé dans l'opération. Voilà, c'est une grande première. Donc ça, c'est un grand rêve, c'est la fusion nucléaire. Grand rêve de... Attendez, je vous le résume quelque part. Où est-ce que c'est ? Voilà. Alors, est-ce qu'un jour, c'est le rêve de la fusion nucléaire, hein, est-ce qu'un jour on aura vraiment les outils capables de produire, peut-être dans 20 ou 30 ans, écrit l'opinion, une énergie abondante, sans générer de déchets nucléaires, ni émettre de CO2, voilà, ça c'est un rêve. Et donc là, il y a une expérience scientifique qui a eu lieu aux États-Unis, dont assez peu de médias ont parlé. L'opinion est totalement dithyrambique là-dessus, trouve ça formidable. Et puis on en parlera ensemble parce que je sais que certains sont assez calés là-dessus. On fera quelques recherches pour affiner un petit peu cette info parce que l'opinion donne son avis mais ne nous rappelle pas exactement ce qui s'est passé. Et puis alors ça c'est un truc aussi qui est, moi je trouve un petit peu flippant dans un pays comme la France, soi-disant un des pays les plus riches du monde. On est en 2022, 2023 arrive et ben, dans nos pharmacies il y a plus de médicaments. C'est-à-dire qu'il y a pénurie d'antibiotiques, il y a pénurie de paracétamol, il y a pénurie de l'antibiotique pour les enfants notamment. Il n'y a plus de corticoïdes, je sais, moi j'ai voulu, j'avais un gros rhume, j'ai voulu choper du Soluprède qui me bloque bien le nez quand je fais de l'antenne notamment. Il n'y a plus de corticoïdes dans les pharmacies, donc des médicaments de base. Alors c'est pas la grève des labos, non, Sarkal, c'est pas la grève des labos, c'est tout simplement, c'est ce que dit l'opinion, c'est la souveraineté en échec, c'est-à-dire qu'au nom de la mondialisation, ben, on a laissé tout simplement les médicaments se faire fabriquer ailleurs, avec les principes actifs de ces médicaments, se faire pratiquer. Fabriqués ailleurs, notamment en Chine et en Inde, et non, on n'a tout simplement plus la maîtrise en fait de la production de médicaments dans notre pays. Donc quand il y a des crises, bon là le Covid par exemple, ou des épidémies de broncholite ou de grippe, eh bien, la consommation de médicaments augmente et on n'a plus les stocks et on n'a plus la production non plus. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit un grand progrès. Manifestement, il y a une prise de conscience puisqu'on reparle de refabriquer les médicaments en France, mais entre le moment où on en parle et le moment où l'usine est construite et ça repart, eh bien, ça prend un petit peu de temps, d'où ce dessin de CAC que j'adore avec le ministre de la Santé ici, avec la liste des médicaments qui manquent, quelques-uns, parce qu'en fait, ce n'est pas 3 ou 4 médicaments, c'est des centaines de médicaments qui sont en pénurie. Paracétamol, augmentin, amoxicilline, corticoïde, et le ministre de la Santé qui confirme. De toute façon, le temps que vous trouviez un médecin, parce qu'on manque aussi de médecins en France, pour vous prescrire ces médicaments, la pénurie sera terminée, c'est ce qu'on appelle de l'humour noir. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui bossait dans le... Ouais, il y a Écrase qui bosse dans la livraison médicale, qui me dit, je confirme, on est en flux tendu de fou. Les palettes arrivent au compte-gouttes et c'est dilapidé en un jour. Voilà. Ouais. Dark Knight me dit, c'est également les instances de la sécurité sociale qui essaient tellement de tirer les prix vers le bas que les laboratoires préfèrent vendre à l'étranger au plus offrant. Je crois que c'est aussi une des raisons. Ouais. Je crois que tu as raison. C'est sûr qu'il n'y a pas de pénurie de conneries en France, dit Electrib 45, qui est en pleine forme. Qu'époque reparle du prix, effectivement. Il n'y a pas de pénurie, en fait, c'est juste qu'il y a meilleur acheteur. Ok. Ouais, vous êtes plusieurs à le dire. Il y a Gandalf Listari, qui est modo sur cette chaîne, qui dit « Il y a aussi le choix d'imposer aux fabricants les tarifs de remboursement tellement au ras des pâquerettes que les labos n'ont pas le choix que d'aller produire ailleurs. » Ok, ok. C'est intéressant. Alors du coup, ça a des conséquences un peu inquiétantes. Il y a Isara Gaming qui écrit dans le chat « Je suis atteinte d'une maladie auto-immune et je galère à avoir mes médicaments pour mon traitement. » Ouais. J'aime bien la citation de Même Achat, de la connerie, c'est le repos de l'intelligence. Je valide. Rumiel 0410, merci pour le 12e mois. Adrien ou Ardlen, je ne sais pas, pour le 15e mois, merci beaucoup. Mon Gâtre TV, merci pour le 13e mois. The Amazing Signe Noir écrit, on récolte les fruits d'un capitalisme excessif. Enfin, c'est mon impression. C'est pas faux ça. Ducati et Macaron, c'est longtemps qu'on en parle ça. Peut-être faut-il revoir également pourquoi les pharmacies vendent par boîte entière les médocs. Mon veto vend juste la quantité nécessaire, ça coûte moins cher. On se retrouve pas avec plein de médocs inutiles dans la boîte à pharmacie. J'ai l'impression que c'est un vieux débat ça. Il y a des pays où on donne que les médicaments nécessaires. En Grande-Bretagne, je crois notamment, c'est comme ça quoi. C'est vrai que c'est un truc dont on parle beaucoup, depuis longtemps ça, mais j'ai l'impression que c'est pas mis en place quoi. Merci David Bezac 2 pour le 5e mois d'abonnement. Un petit café et on y va. Voilà. Et puis, comme vous avez vu, j'ai pas un milliard de dossiers à vous lire ce matin. N'hésitez pas à attirer mon attention sur une autre info que vous voulez qu'on traite, s'il y a des choses dont vous voulez parler ce matin. Sachant qu'on fera des recherches aussi, notamment sur la fusion nucléaire, par exemple. Parce que je trouve que l'article de l'Opinion est intéressant, mais manque un petit peu de chair et d'infos. Aux États-Unis, me dit Fabulous Doumi, on vend peut-être aussi des médicaments... non pas à la boîte, mais en fonction des besoins. Quoi. Et la Rosta qui renvoie au mondial, il faut envoyer des médicaments à Rabiot qui a attrapé froid au Qatar à cause de la clim. Et c'est vrai. On a quand même deux de nos meilleurs joueurs qui peuvent pas jouer parce qu'ils ont pris froid à cause de la clim au Qatar. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est le pays de la clim. Hein. Ouais, l'interview de Quatennens, si on a du temps pour en parler, ouais, c'est vrai. Radiono est pharmacien. Et écrit à propos des médicaments, je peux témoigner. Le problème de la délivrance à l'unité, c'est que la sécurité sociale ne veut pas payer pour ce travail supplémentaire, parce que c'est un travail supplémentaire pour le pharmacien, j'en ai bien conscience, alors que la pharmacie est en tension de personnel. Ah, c'est intéressant. Je confirme au Royaume-Uni, me dit Skylar, quand tu as une prescription du médecin, c'est directement transmis à la pharmacie qui délivrera le bon nombre de médicaments pour la durée de traitement. Ça, c'est vrai, ça. Allez, Tibet, merci pour le 16e mois. Est-ce que je peux avoir la musique du café ? Oh, je ne l'ai pas mis depuis des mois. Ok. Des mois que j'ai pas mis la musique du café. Ok. C'est gentiment demandé. Let's go. Je ne sais même plus où elle est. Je crois qu'elle est là. Ouais, c'était ça. Musique du café. Ah là là. C'est drôle ça. Alors ça, des premiers mois, je la mettais chaque fois que je buvais une gorgée de café. Et puis j'ai perdu l'habitude de cette musique, peut-être parce que je bois encore plus de café qu'avant et que et du coup ça rappelle. Il y a Lucien Ducasse qui parle même de nostalgie dans le chat, ça rappelle plein de souvenirs. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Mais c'est vrai que c'est un bon souvenir pour le coup. Allez, et si on parlait des retraites un petit peu ce matin? Hein? La raison revient de 45 minutes de course à pied et nous rejoint. On y va? Alors, les retraites. Alors, il y a deux questions dans ce dossier de Libération. Il y a un, qu'est-ce qu'en pensent les Français de cette réforme des retraites qui est annoncée pour une présentation précise et définitive, non pas là maintenant tout de suite, mais ça a été reporté dans un mois. Hein, c'est ce qu'a décidé le président. Arrêtez avec vos questions, j'ai envie d'interrompre cette revue de presse tout le temps. Ouais, cette question, elle m'intéresse pour des raisons personnelles. Il y a Clyde08 qui écrit: Bonjour Samuel, quiz rapide. Est-ce que la carapace bleue peut être esquivée sur Mario Kart? Si tu sais répondre à cette question, tu en passes d'être l'un des plus grands joueurs français de Mario Kart. Écoute, c'est une vraie question que je me pose quand je joue avec Malo et avec elle de Mario Kart. Est-ce qu'on peut esquiver la carapace bleue, celle qui vient te chercher quand t'es en pole position, je pense, hein, dans la course? Alors, je suis sûr. Avec un klaxon, ça peut le faire? Ah, ça marche avec le klaxon? Je me posais la question. Avec le klaxon, ça peut éviter la carapace bleue? Ok, bah je vois très bien. Ou champi, c'est-à-dire un champignon d'accélération? Attends. Avec un champignon d'accélération bien placé, donc le klaxon peut contrer la carapace bleue, et le champignon, au moment où elle tombe, mais il faut être bien précis, pop, 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 pop. Avec une banane aussi, mais c'est technique, je crois pas à la banane. Hein, la technique du champignon, mais c'est très compliqué. Champi pile au moment où la carapace tombe sur toi. Je vais déchirer tout le monde à la maison avec cette astuce. Ou alors il faut passer deuxième avec un petit coup de frein. Ouais, mais le moment où tu vas arriver à la carapace bleue, c'est trop tard, non? Ok. Dur à faire avec le champi. Ok. Ok. Demande à Étoile de te coacher. Oh, je veux pas l'embêter avec ça. Étoile, il y arrive, oui, mais Étoile, c'est un goat. Ok. Ok. Mais je désespère pas de me mettre au gaming moi aussi quand j'aurai un petit peu de temps. Ok, merci. Bon, j'ai appris quelque chose grâce à vous. Bon, à moi de vous apprendre des trucs maintenant sur la réforme des retraites. Il y a deux choses dans ce dossier, c'est qu'en pensent les Français et est-ce que, c'est ça qu'on va gratter un petit peu ce matin, est-ce qu'une autre solution est possible plutôt que l'augmentation de la durée de cotisation et slash ou le départ de l'âge légal à la retraite qui serait retardé. Réforme des retraites, pourquoi les Français n'en veulent pas? Donc, bon, ça, c'est pas vraiment une grande surprise, mais effectivement, c'est ce que disent les sondages. A priori, les Français sont pas très, 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 très chauds pour cette réforme-là des retraites. Sondage Via Voice pour Libération. La majorité des personnes interrogées, on va voir ça dans le détail, s'oppose à un report de l'âge légal de départ à la retraite, hein, à 65 ans. Le chef de l'État s'est accordé, vous le savez peut-être, un délai jusqu'à janvier. Pourquoi? Officiellement faire de la pédagogie. Mais il lui reste du boulot, estime Libération, pour convaincre l'opinion. Lisons. Je suis en train de vous lire en même temps, parce que je lis les journaux et je lis le chat aussi. Et puis je remercie les subs. Kamji, merci pour le troisième mois. Lord Bigos, merci pour le sixième mois. Clyde08 pour la question Mario Kart, merci pour le 15e mois. La cantine, merci pour le troisième mois. Alors, est-ce que je vous lis l'édito ou l'article? Peut-être l'édito pour commencer. On y va? Dommage. Dommage, écrit Alexandra Schwarzbrod. Merci à Nitre pour le deuxième mois. C'est donc 4 jours avant d'entrer dans le dur que le chef de l'État a décidé. Ah, mais excusez-moi. Tonton Buzz, j'en peux plus de ce débat retraite. 6 ans qu'on en parle, zéro avancée. Tu as tellement raison. Ça fait 6 ans que cette majorité, que ce président, c'est vrai, annonce une réforme des retraites. Ça fait 6 ans. Une première réforme des retraites. Je ne sais plus quelle forme elle avait. Après, c'était la retraite à points. Ça a été reporté. Il y a eu le Covid, etc. Et tout. Là, c'est une nouvelle mouture. Ça fait 6 ans qu'on en parle. Tu as raison. Tu as raison. Donc là, on nous dit qu'elle va être faite. Ou pas, d'ailleurs. Mais tu as raison. Après, il y a eu d'autres réformes menée par d'autres gouvernements. J'ai l'impression que tous les 3-4 ans, tu as une réforme des retraites en France. Mais là, ça fait 6 ans que le président Macron parle d'une réforme des retraites qu'il n'est toujours pas faite. Tu as raison, c'est vrai. Dommage. C'est donc 4 jours avant d'entrer dans le dur que le chef de l'État a décidé, à la surprise générale, de repousser la présentation publique de sa réforme des retraites qui devait avoir lieu ce jeudi 15 décembre. Malorielle dit on a déjà un système à points. Non, bah non, ça c'était le projet de Macron lors du dernier quinquennat, et puis finalement ça n'a jamais été fait. Oubliez la réforme à points. Emmanuel Macron aurait-il enfin compris que ce projet, rejeté par les syndicats et une majorité de Français, a besoin d'être expliqué davantage, comme le suggérait François Bayrou dimanche dans le JDD. Cela fait 6 ans que cette envie présidentielle de réforme empoisonne la vie publique. On ne compte plus les rapports, les réunions sur le sujet, tout cela pour changer de projet d'un quinquennat sur l'autre. Cela commence à bien faire. Je suis en train de vous lire en même temps. Les Français n'y comprennent plus rien. J'ai l'impression que dans le chat, c'est un peu la même chose. Ils ne savent plus si le système des retraites est à ce point déficitaire qu'il présente réellement le risque de s'effondrer à terme, parce que c'est ce que dit le gouvernement, ou s'il s'agit juste de remplir les caisses pour financer d'autres besoins. C'est dommage, écrit Libération, car le rapport au travail est en train de changer profondément en France sous l'impact des crises sanitaires et climatiques. Depuis le confinement, beaucoup, notamment dans les jeunes générations, éprouvent le besoin de disposer de temps pour eux. Avant de fixer l'âge de départ à la retraite, il faudrait peut-être d'abord repenser le rythme de travail en France, estime Libération, expérimenter plus largement par exemple la semaine de 4 jours, qui selon Libé a fait ses preuves partout où elle a été mise en place en termes de productivité et d'envie de travailler. En s'arc-boutant sur cette réforme controversée, le président Macron court le risque de jeter une partie du pays dans la rue. Tout ça pour être sûr de laisser une trace de son passage à l'Élysée, c'est un peu court. Ça, c'est l'analyse de Libération. Je vous lis un petit peu, puis après, je vous lis l'article. Ça, c'était l'édito. Lady Overlies, ma mère est au bout du rouleau. Comme directrice de crèche à Paris, elle pleure tout. Oh, c'est chaud. Tous les soirs en rentrant, mais elle voit la lumière au bout du tunnel. Mais Macron va lui ajouter des mois avec sa réforme de... Voilà. Voilà. Alors certains sont déjà sur les autres pistes. J'aime les stats, écrit, on peut financer les retraites autrement, par un peu plus d'impôts par exemple. J'aime bien cette citation, si tu te lèves avec l'envie de travailler, recouche-toi, ça passera. Ok. Nono le Boudin, j'ai bossé en 4 jours et c'est vrai que c'était trop bien. Notre sondage, le résultat du sondage, donc réalisé par l'Institut Via Voice, indique que plus de la moitié des personnes interrogées, 55% précisément, n'estiment pas clair les intentions du gouvernement sur l'évolution du système des retraites. La même proportion, donc on est sur 55%, n'est pas d'accord avec le mantra de l'exécutif selon lequel il est nécessaire de travailler plus longtemps pour sauver le système et se montre défavorable au report progressif de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Comme dans d'autres études, ce sont les personnes... Alors ça, c'est intéressant. Alors, comme dans d'autres sondages, ce sont les personnes déjà à la retraite, 54%, qui veulent voir les actifs travailler plus longtemps. Ça, c'est chaud, ça. En fait, une majorité des gens à la retraite, c'est-à-dire qu'à l'inverse du résultat de cette enquête auprès des autres Français, la majorité des gens à la retraite sont d'accord pour que ceux qui travaillent encore travaillent plus longtemps. Égoïste. Égoïste. Allez, c'est chier quoi. Hein? C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Égoïste. Bon, c'est pas 100% des gens à la retraite, hein. Allons pas jeter des cailloux même des boulettes de papier sur tous les retraités qu'on va croiser, hein. C'est 55%, donc ça veut dire qu'il y en a 45% qui sont contre. Égoïste quand même, ceux-là. Ah, j'arrête. Employés et ouvriers sont, eux, très majoritairement contre, hein, 77%, tout comme les professions intermédiaires, 72%, même les cadres, 60%, sont a priori moins touchés pourtant par ce report. Voilà. Donc, une majorité des Français contre cette réforme, sauf une majorité de retraités. Égoïste. Je poursuis l'article. Même si Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont devoir cravacher pour obtenir un soutien de l'ensemble de l'opinion, c'est pas gagné. Sur une réforme toujours en cours d'arbitrage, ils peuvent s'appuyer sur un alignement de leur électorat avec celui de la droite. Sur la prétendue nécessité de travailler plus longtemps pour sauver le système de retraite par répartition, les sympathisants de la majorité sont d'accord à 70%. Donc vous avez les électeurs, les sympathisants de la majorité actuelle qui sont OK avec cet argument, il faut travailler plus longtemps pour sauver notre système de retraite. Et on arrive sur les mêmes chiffres pour les électeurs de la droite. C'est pour ça qu'on peut peut-être parler d'une réforme de droite. 70% des sympathisants de droite pour... Non, 70% pour les sympathisants de la majorité, 77% pour les sympathisants de la droite, alors que 73% des sympathisants de gauche sont en désaccord avec cette réforme, tout comme 70% de ceux qui se disent proches de l'extrême droite. Voilà. Y a Nazamad qui pourrait rigoler dans le chat, dit « Je vais aller engueuler deux personnes âgées dans la rue pour ça. Statistiquement parlant, au moins des deux l'aura mérité. Non, tu ne le feras pas, je le sais. » Et deux, évidemment, cette histoire ne doit pas nous emmener vers des tensions entre les générations, puisque en vrai, voilà, ça marche pas comme ça, quoi. Ça marche pas comme ça. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec les autres solutions éventuelles. Alors, droite censée, gauche démago, demande Romusège. Voilà. Je vous lis, je remonte un peu dans le chat. Yanos Système, merci pour le cinquième mois. Adnitre, je te remercie tout à l'heure, je le refais. Pour le sub, merci beaucoup. Il faut bien de l'argent. Est-ce qu'on va pas encore augmenter les impôts, s'inquiète Tibet, on va en parler. Allez, lisons maintenant cet article à droite qui se penche sur les éventuelles autres pistes. Déjà, Libération n'est pas d'accord avec l'argumentaire financier qui est brandi par le gouvernement pour dire que cette réforme est nécessaire. Si les syndicats reconnaissent un déséquilibre actuel dans le système des retraites, ils ne sont pas convaincus par les chiffres menaçants qui sont transmis par le gouvernement pour justifier cette réforme, écrit ce matin Libération. Un exécutif qui affirme avec le patronat que sans réforme l'avenir du système de retraite par répartition est menacé, des syndicats qui répliquent dans une unanimité qui n'est pas vue depuis plus de 10 ans que le régime n'est pas en danger, y compris pour les jeunes générations, donc ça, on a l'impression qu'un peu c'est un dialogue de sourds. La situation est-elle si dramatique? Ça, c'est un peu la question qui est au cœur de notre débat. Pas selon les syndicats et quelques économistes spécialistes du sujet, sur les 345 milliards d'euros de prestations que représente le système des retraites, si vous avez 10 à 12 milliards d'euros de déficit, vous êtes dans l'épaisseur du trait. Ça n'est pas gigantesque, c'est ce que dit Dominique Corona, qui est le négociateur de l'UNSA, par exemple, donc on est du côté des syndicats. Dans un article récent, vous avez un chercheur, le directeur de l'Institut des politiques publiques, qui s'appelle Antoine Bozio, qui dit « Les syndicats n'ont pas tort lorsqu'ils affirment que le système n'est pas en danger ». Il n'en reste pas moins, dit ce même économiste, que le déficit est bien durable et il y a donc un argument solide à vouloir remettre le système à l'équilibre sans trop attendre. Alors comment? C'est là où les pistes divergent. Le gouvernement dit qu'il faut travailler plus longtemps, hein, il faut augmenter la durée de cotisation ou reporter l'âge légal de départ à la retraite, ou les deux, mais ça on verra dans un mois quand on aura enfin les précisions qu'on attend. J'en étais sûr qu'avec Diverge... J'en étais sûr, au moment où j'ai dit les opinions divergent, j'étais sûr que ça allait... Captain McBernick, Lalinou, vous ne devriez pas être fier de tout ça. Verge. Mais vous avez quel âge? Donc, le gouvernement dit qu'il faut travailler plus longtemps. Après, il y a Pour d'autres, il y a d'autres solutions. Mise à contribution des retraités. Hausse des cotisations patronales ou salariales. Ça, c'est une hypothèse que les syndicats demandent au gouvernement d'étudier. C'est drôle. François Bayrou, par exemple, vient de déclarer lors d'une interview à la radio. Bon, François Bayrou, qui est proche du président Macron, hein, qui est le président du Modem, dit on va peut-être trop vite sur cette réforme, on l'explique mal, et il y a peut-être d'autres solutions, notamment, attendez, je vais vous trouver exactement l'info, Bayrou retraite, parce que je ne veux pas déformer les propos. Lui, il dit qu'il y a une autre solution, quoi. Et on n'est pas à gauche, là. Hein. Je vous trouve l'info, je crois que c'est sur RTL. Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu, ça, il y a quelques heures, là. Attends, je vais vous le trouver, Bayrou. Où est-ce que tu... Est-ce que c'est ça? Je vous la trouve. Attendez, je vais taper Bayrou cotisation. Je l'ai vu tout à l'heure dans mon taxi qui me ramenait du boulot, là. Oh, ça m'énerve quand je trouve pas. Mais qui râle tout seul. Je vais vous le trouver, moi. Bayrou cotisation. Parce que ça m'a surpris d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, petite fausse note. T'es où, mon chouchou? Je ne trouve plus. L'aurais-je rêvé? Vous l'avez retrouvé, vous? Ah, je l'ai mal compris. Ah non, si, il dit bien que que l'allongement de la durée de cotisation, c'est pas forcément la solution. Donc le mot. Est-ce que. Voilà. Je retrouve pas l'info. Peut-être rêver ça. Vous l'avez, vous, ou pas? Macron. Il prend cher ce matin, Papy Sam. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Le papy qui marmonne en râlant dans sa barbe. Ah, vous êtes chier quand même de vous foutre de moi. Je pensais que Bayrou avait dit un truc genre qu'il va peut-être augmenter les cotisations. Attendez. Ce qui m'avait un peu surpris. Peut-être que dans le taxi, ça bouge en fait. Donc, peut-être que j'ai mal lu. Je trouvais un peu bizarre que Bayrou dise ça en fait. Alors, actualité. Alors, l'effort de pédagogie réclamé par le président du Modem, ça, je l'avais vu, ça. Il y a Lost in Translation qui dit « Je l'ai, mais je donnerai pas l'info. » Putain, vous êtes dur avec moi. Vous êtes dur aujourd'hui. Hein. Je vais le trouver. J'ai tout mon temps, hein. Ah, il y a qu'une tota qui m'a collé un lien dans le chat, mais on peut pas coller de lien dans le chat ici. Par contre, vous pouvez m'envoyer des DM. Est-ce que quelqu'un m'a trouvé l'article? Ah, il y a Nico Monga qui m'a envoyé un truc, c'est quoi?
Réunir les belles familles.
C'est quoi? Non, ça c'est un passage de Danse avec les stars avec Michou, donc c'est autre chose, c'est un vieux truc, rien à voir. Oui, sur LCI, c'est ça, un truc sur LCI. Attendez, bon, attends. Je pense que c'est ça, voilà. Bon, voyons ce qu'il a dit. Mais peut-être que je me suis un peu trompé. Donc, sur LCI, il a dit il faut que la réforme soit équilibrée. Alors, ça veut dire quoi? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire équilibrée? Est-ce qu'il précise un peu? Est-ce qu'il sort un petit peu du flou? Ouais, pas tellement, en fait. Oh, ça m'ennuie, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ouais, bon, il est pas très précis, chouchou. Bon, moi j'ai rêvé alors. Oh, pourtant, j'étais tellement sûr de mon coup là. Comment faire un stream de 3 heures? C'est très simple en fait, tout simplement en n'étant pas très très clair dans les infos qu'on cherche. Augmentation. Ah, j'ai vu un tweet là-dessus, j'ai pas rêvé. Augmentation, cotisation. Le problème, c'est qu'il y a augmenter la durée de cotisation et augmenter les cotisations, c'est pas la même chose. C'est là en fait. Ah, je l'ai trouvé! Je cherchais. Ça y est, je savais que j'avais pas rêvé. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je savais que j'avais pas rêvé. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, non, c'est pas le son, regardez, c'est ça qui est intéressant. Retraite, deux points, ouvrez les guillemets. Bayrou dit, c'est très intéressant. Je pense qu'il existe une piste que pour l'instant le gouvernement écarte. C'est une légère augmentation des cotisations retraite des employeurs, des entreprises. Je l'ai retrouvé. Un point de plus, ça permettrait de trouver un équilibre. Même Bayrou, même François Bayrou, qui n'est pas un gauchiste, quoi, dit, il y a peut-être une autre solution, quoi. Hein ? Ha ! Ha ! On va même l'écouter, tiens, tellement je suis content d'avoir retrouvé mon truc là. Hein, la démonstration que l'opiniâtreté, hein, la ténacité, hein, eh bien ça paye. Ouais. J'ai pris le temps de chercher cette info. Écoutons monsieur François Bayrou.
En revanche, augmenter les cotisations payées individuellement, est-ce que ça peut être une piste? Elle a été écartée jusque-là.
Vas-y Adrien, pose la question.
Pour moi non, parce que ce à quoi il ne faut pas porter atteinte, c'est la feuille de paie des salariés. Je pense qu'il existe une piste que pour l'instant le gouvernement...
Moi je suis d'accord, ne touchons pas à la fiche de paie des salariés.
...carte, mais qui moi ne me paraît pas totalement inutile d'examiner.
François, dis les termes.
C'est une légère augmentation des cotisations retraite des employeurs.
Ah ah ! Dangereux gauchiste, François Bayrou, je l'ai toujours dit.
Des entreprises. Très légère augmentation.
Qui serait de... Quel ordre de grandeur ?
Actuellement, l'augmentation, c'est 16,5 et le taux, c'est 16,5.
Oui.
16,5 de la masse salariale comme cotisation retraite.
Combien, alors,
employeur, François ? Je pense qu'on pourrait passer à 17,5.
Voilà.
Un point. Et un point, ça représente 0,7% de la masse salariale, de la charge sur
et les. Et ça permettrait d'aller un peu moins sur l'âge.
Et ça permettrait de trouver un équilibre. Encore une fois, je m'exprime là, autant sur. Les chiffres que nous avons établis, j'engage...
Quel gauchiste, François Bayrou, vous voyez ? Même François Bayrou, il dit qu'il y a peut-être d'autres solutions quand même. Hein ? Voilà. Alors, il ne dit pas que ça peut remplacer l'allongement de la durée de travail, mais il dit que ça peut faire un espèce d'entre-deux, un truc qui serait un peu plus compris par les Français. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bon, je suis content d'avoir retrouvé cette info. Je pensais avoir rêvé quand même. Voilà. Je suis fier de toi, Samuel, me dit Sylvie Vartan. Oh, Sylvie Vartan, j'adore. Moi aussi, je suis très fier de moi. Voilà, très content d'avoir retrouvé cette info. On va finir l'article de Libé. Je remercie Lost in Translation qui nous regarde depuis le Japon, avec qui on a échangé hier, avec Papsan hier. On a parlé de l'Asie notamment. C'est intéressant. Yano System, merci pour le 5e mois. Allez, je vous remets la fin de l'article de Libé. Donc. Certains économistes disent que l'augmentation de l'âge du départ à la retraite, c'est pas forcément la seule solution possible. Voilà. Et là, on vient entendre François Bayrou, par exemple, qui traçait une autre piste possible. Quoi. Alors, le gouvernement dit qu'il faut, en termes de compétitivité pour les entreprises, mais il faut pas faire ça, bien sûr. Mais ça, c'est le discours du pouvoir Macron depuis quelques années déjà. Quoi. En donnant même des chiffres pour faire un petit peu peur. Si on évoque avec le gouvernement, d'après ses projections, une mise à contribution des retraités, par exemple, hein, ou une hausse des cotisations, ça donnerait, selon le gouvernement, 400 euros de trou par an dans le salaire net d'un travailleur au salaire moyen 2027. Et en cas de relèvement des cotisations, 660 euros de pension en moins par an pour un retraité moyen si on baissait les pensions. Voilà. Bon. On n'est pas plus avancé. C'est toujours le même débat. C'est, je vous le résume, 1. Est-ce qu'il faut une réforme des retraites, hein? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire travailler les Français plus longtemps pour sauver le système de retraite? Certains au gouvernement disent oui, c'est obligatoire, voilà, sinon le truc il va cracher. Et puis d'autres disent, notamment à gauche, mais vous avez que François Bayrou qui n'est pas à gauche fait entendre une autre musique, il y a d'autres solutions qui seraient d'augmenter un peu les impôts, d'augmenter un petit peu les cotisations, par exemple patronales ou voire salariales. Voilà. Donc il y a ça. Et puis après, c'est pour sauver le système de retraite, effectivement, il y a différentes pistes qu'on vient d'évoquer. Voilà, c'est toujours la, en fait, on est au cœur de la politique. C'est où on met le curseur, où on met le curseur, notamment des impôts, des taxes pour financer tel ou tel projet. Est-ce qu'on choisit de faire, par exemple, des impôts très faibles sur les entreprises pour favoriser leur compétitivité, hein, c'est un peu la doxa, la philosophie d'Emmanuel Macron. Libérer le travail, libérer l'initiative, créateur de richesses, ou au contraire, est-ce que par solidarité nationale, eh bien, on accepte, comme le proposait François Bayrou à l'instant, d'augmenter par exemple les cotisations sociales pour les employeurs, pas pour les salariés, pour pérenniser ce système de retraite et lui faire passer ce trou d'air à venir, qui est lié en fait à la pyramide des âges, c'est-à-dire qu'on a en gros, en raison d'une pyramide des âges défavorable et d'une baisse de natalité post-génération du baby-boom, avec plus de salariés, de retraités que nous n'avons de salariés pour payer les retraites. Quoi. Voilà, c'est tout simple. Ça, c'est de la philosophie politique, au final. C'est pas compliqué, c'est une histoire de choix. Je vous lis un petit peu, je vous lis et on enchaîne. On enchaîne avec des histoires de Royaume-Uni et notamment de Chine que je trouve passionnantes dans l'humanité. Puis la question de, et certains l'évoquent dans le chat, du taux d'emploi des seniors. Vous savez que la France est un des pays européens où on fait travailler le moins les seniors, c'est-à-dire les gens qui sont en fin de carrière. Les entreprises estiment que voilà, ils sont trop vieux, pas assez malléables, pas assez souples, trop chers. Alors on s'en débarrasse pour des salariés plus jeunes et moins chers. Sauf que cette réforme, elle est censée nous faire travailler plus longtemps. Comment on fait travailler les gens plus longtemps dans un pays qui ne veut pas faire travailler les seniors? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Il y a un Passenet qui dit qu'il y a une autre piste, par exemple, c'est de remettre l'ISF. Hein, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a été très diminué lors de sa transformation en IFI, un impôt sur la fortune immobilière qui rapporte moins. Eh bien, un Passenet dit qu'il suffirait de remettre l'ISF, par exemple. Merci Gaijin pour ce gentil quatrième mois. Et Ten Doctoris, je n'avais pas vu, merci pour le 15e mois. Et Mjolnir, à l'instant, merci pour le 16e mois, c'est adorable. Merci pour votre soutien, vous êtes cool. Allez, je lis encore deux messages et on passe à la Chine. Pardon, c'est un peu le rhume là, en ce moment. Mais je me soigne pour être très en forme, notamment pour le stream de samedi soir en direct du Muséum de Bordeaux avec Jamy Gourmaud. Petite promo comme ça au passage. Allez, un dernier message. On passe à la Chine, très jolie contre Pétri. Non, il n'y a pas de contrepétrie, Cyril. On passe à la Chine. Il n'y a pas de contrepétrie. Non, je trouve pas. Merci Anna Bananas pour le gentil message. Il n'y a pas de contrepétrie, si. Ouais, bof, bof, bof. J'ai pas entendu, il se passe quoi à Bordeaux, mais enfin. Ça fait des mois que je prépare ce stream, enfin. Je vous remets mon joli visuel que j'ai fait moi-même. Mais voilà, il se passe ça samedi à Bordeaux, ça fait des mois que je bosse là-dessus. Enfin, samedi, on est en direct du Muséum de Bordeaux, samedi, là, 17 décembre, 20h, 23h, Muséum de Bordeaux, muséum sur science, nature, sur la place de l'homme, dans l'environnement, voilà, avec l'ami Jamy Gourmaud, quoi, les gars, quoi, il y aura du micro de partout, on sera au moins 3 en permanence en micro avec la directrice du musée, avec des guides, des experts du musée qui vont nous accompagner, voilà, et Jamy, on sera tous les trois, on va se promener là, on va passer d'un truc à l'autre. Je vais rien avoir à faire, je vais avoir des invités de premier plan, on ne sait jamais qui va tout faire. Voilà. Et donc, c'est 20h, 23h, réservez votre soirée. Là, on a des mois qu'on bosse là-dessus, Enfin, on va se régaler, ça va être super. Il y aura Joe à la réalisation, voilà, on aura la musique que pour nous, et on va se régaler, quoi. Avec le grand Jamy Gambo. Ça va être super, hein. Ouais. Alors, on prend le train, on dort à l'hôtel, on a un matos de fou. Folie. Voilà. C'est cool, hein. Ah ouais, c'est pas bête. Ah, pas con. Ouais, il y a V Freeman qui m'a dit j'aurais dû mettre Samy et Jamy. Ah, c'est pas con. C'est pas con. Attends, tu sais quoi, je vais modifier tout de suite mon visuel. Je vais reposter mon visuel samedi. Ah mais ouais, je vais mettre Samy et Jamy. Ça va changer ça. Tiens, ça me fait 20 000, ça va me faire 20 000 viewers en plus. Attends. Parce que je fais ça moi-même, hein.
Voilà. Il est où mon visuel là? Projet.
C'est moi qui fais tout ça à la main, hein. Alors, il est où mon visuel avec Jamy là? D'afficher tout. C'est moi le roi du visuel là. Alors attends, il est où mon visuel là? Mon visuel du musée là. 1 sur 5, c'est ça là? Non, c'est pas ça. C'est ça alors? Non, c'est pas ça. C'est ça alors? À la fin là? Ah, je l'ai. Faut que je fasse ça tout à l'heure. Ok. Samy et Jamy, très bonne idée. Après Fred et Jamy. Samy et Jamy. Ah. Samy Gourmaud et Jamy l'Étienne. Vous êtes bêtes. Maître Gobelin, le train, un peu déçu que tu n'aies pas aussi ton jet privé, mais où va l'argent des subs enfin? Mais si vous saviez. Je suis de ma poche hein, sur un stream comme ça, hein, sur un stream exceptionnel là. Ça rapporte pas de sous, hein, c'est pour le kiff. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Je me plains. Ouais. Non, train plus écolo déjà, hein. On va pas prendre l'avion pour aller à Bordeaux, hein. Voilà. Petit hôtel près du musée là, voilà, avec Joe pour faire des économies. J'ai failli prendre une chambre avec un seul lit, mais je me suis dit putain, pour Joe c'est pas cool quand même, voilà. Déjà, hein, puis je pense que je ronfle, peut-être même que je pète quand je dors, ça on sait pas trop, il y a une légende là-dessus, j'ai fait péter les sous, hein, j'ai pris une chambre pour Joe, il aura sa chambre à lui, quoi. Voilà quoi. Voilà. C'est folie, on dépense des milliers et des milliers d'euros là pour ce stream là. Il y a Cyril qui dit tout le monde pète au lit. Bon, on va pas faire un sondage là-dessus parce que Merci l'extratovic. Un gros bisou à ta grand-mère Léa, merci pour le message et pour le sub. Bon, je dois vous quitter, je finirai le stream en rediff. Bonne journée. Salut Sarah, bonne journée à toi. Voilà. Bon allez, on passe à l'humanité. Haha, l'humanité. Deux choses intéressantes. Royaume-Uni, grève historique dans la santé. Et puis surtout ce dossier sur ce qui se passe en Chine, que je trouve ça passionnant. Royaume-Uni, grève historique dans la santé. Accablés par la diminution de leur niveau de vie et par leurs conditions de travail. C'est vrai que ça a l'air très très chaud pour les infirmiers et les infirmières au Royaume-Uni. Les infirmières britanniques décident une mobilisation inédite depuis un siècle. Lisons ça d'abord et après on ira en Chine, vous allez voir, c'est passionnant. Cornelius, Art Production, merci beaucoup pour ce troisième mois. Il y a Sakadal qui arrive et qui dit « Mais qui pète au lit ?» Jamy, c'est Jamy. Il y a eu des articles dans la presse sur Jamy qui pète au lit. C'est comme ça. Mais moi, je ne veux pas faire de la discrimination par rapport à mes invités sur qui pète pas au lit. Donc je suis un garçon assez ouvert. Et donc, je pense qu'il faut... Moi, je suis contre les discriminations de façon générale. Et c'est pas parce qu'effectivement, il y a eu des enquêtes. Je crois qu'Élise Lucet a fait un envoyé spécial là-dessus. Sur le fait que Jamy pète un peu au lit. Il faut discriminer. Non. Voilà. Donc moi, je dis non. Non à la discrimination. Hein. C'est pas parce qu'au niveau des intestins, ça travaille un peu trop que, voilà. Hein, c'est un invité qui a sûrement d'autres qualités, quoi. Je redeviens sérieux pour parler de ça. À bout, les infirmières britanniques se mettent en grève. Accablées par la baisse de leur niveau de vie et leurs conditions de travail, ces personnels soignants ont choisi de débrayer. Alors, en Grande-Bretagne, c'est juste une folie. C'est une première depuis 100 ans. C'est pas un grand pays de manif, hein, la Grande-Bretagne. comparé à un autre pays que vous connaissez un peu, qui s'appelle la France, où on a d'autres traditions. La colère dépasse le vecteur de la santé, favorise l'émergence d'un un vaste mouvement de contestation. On a un éditorial de Laurent Mouloud qui écrit de très bons éditos dans l'UMA à ce propos sur la situation, la condition des infirmiers et des infirmières britanniques. Le chiffre à lui seul donne la dimension historique du mouvement. Cela fait 106 ans, depuis la création de leur syndicat, que les infirmières britanniques ne s'étaient pas mises en grève. Ce jeudi, ainsi que le 20 décembre, elles seront plus de 100 000 à débrayer en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande du Nord. C'est du jamais vu, même sous le règne de Margaret Thatcher, qui avait réussi à mettre pas mal de monde dans la rue, notamment les mineurs. Ce défilé inédit illustre la gravité de la crise sociale qui secoue le Royaume-Uni, où la question salariale est devenue incandescente sur fond d'inflation galopante. Postiers, il n'y a pas que les infirmières. Postiers, cheminots, personnel des aéroports, les secteurs notamment publics se mobilisent les uns après les autres, en Grande-Bretagne, jusqu'au 31 décembre au moins, le pays ne connaîtra aucune journée sans grève. Ça, c'est quand même très très nouveau dans ce pays. Le cas des infirmières est exemplaire à plus d'un titre, explique l'UMA. Depuis 2010, le revenu a chuté de 20%, je suppose en raison de l'inflation, à tel point que certains hôpitaux ont dû ouvrir des banques alimentaires pour soutenir leur personnel, éreintés, sous-payés. 25 000 d'entre elles ont claqué la porte l'an dernier. Vous avez 25 000 infirmières qui ont quitté l'hôpital public. Aux demandes légitimes de rattrapage salarial, la réponse du Premier ministre conservateur, Rishi Sunak, et celle pavlovienne de tous les gouvernements libéraux, écrit l'Humanité, l'austérité budgétaire, surtout pas d'augmentation des salaires qui pourrait nourrir une hausse des prix. Le bras de fer engagé par les travailleurs et travailleuses britanniques soutenu par une bonne partie de l'opinion n'a rien d'un simple coup de gueule, estime l'UMA. C'est un coup de semonce envoyé à tous les gouvernements enivrés de dogmes libéraux. Donc là, on sent que l'UMA est en train d'arriver un petit peu sur la France. Un avertissement que la Macronie, ça y est, on y est, qui a mis la question salariale sous le tapis et s'apprête à passer en force sur la réforme des retraites, ferait bien de prendre au sérieux cette colère-là, n'attendra pas un siècle. Tiens, marrant, à ce propos, j'ai une question à vous poser. Quand on voit les chiffres de macroéconomie, on nous dit que là, ces derniers mois, les salaires ont augmenté en France. Voilà. Tiens, je vais vous trouver un chiffre pour vous dire que je... Alors, augmentation des salaires en 2022, tiens. Voilà, j'ai un article de West France, là. Qui date de quoi? Qui date du 14 décembre. Hein? Ok? Ok? Ok. Alors, moi, j'ai entendu plein de choses comme ça. Bon. Augmentation des hausses de salaire de 4 à 17%, notamment chez les cadres. Là, c'est les cadres. C'est un peu particulier. Mais même au niveau national, on a ce genre de choses. Ouais. Ça, c'est le SMIC, c'est encore autre chose. On va trouver. Voilà. Ouais. Novembre 2022. Voilà. Voilà. Plusieurs études sur la question de l'augmentation des salaires sont parues à la mi-2022 avec des chiffrages de plus 3% des salaires en moyenne sur le premier semestre. Voilà. Le ministère des Finances, dont sa loi de finances 2023, a chiffré l'inflation en 2022 à 5,4%. Et à 4,9% l'augmentation du revenu disponible brut des ménages. Voilà. Donc on a plusieurs études qui nous disent que les salaires augmentent en France. Je voulais juste vous demander, vous, si votre salaire pour les salariés avait augmenté ces derniers temps. Non, juste comme ça, au niveau du ressenti. Quand je vois ces chiffres, je suis toujours un peu surpris, en fait. Pasqueta a été augmenté. Donc. Première nouvelle, me dit Netfire. C'est pas mon cas, me dit Oreo. Il y a Poissman. Depuis octobre, le mien a disparu, sinon je serais pas là. Ok, respect et force à toi. J'ai une augmentation, j'admets, me dit Anto. Il y en a qui sont augmentés. Hein? Ok. J'ai eu 1,7%, puis révélation à plus 1% dans une grosse boîte de tech. On nous a fait un cadeau de 3% sur le point dans le médical en privé. Nounou a pris 3,5%. Ah, mais non, la chance. Vous. Oh, il y a Tibet qui a pris 10%. What? 3% cette année pour Zoltar. Oh, ben non. Ah, bah ouais, donc les gens qui sont augmentés en vrai, quoi. 5%, me dit Baptiste. 1% pour Malouane. cadre 4,5% tequila. Eh ben, ok. Bon ben. Anabalaz a enfin été augmenté. Hippopotin dit augmentation tous les ans en général, sauf année Covid. Nom de Dieu. Bon, on doit pas bosser dans les bonnes boîtes alors. Oh là 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 là. 12% Remix a été augmenté de 12%. 4% Shinji. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont augmentés. Eh ben mon cochon. 7% Onizara. 3,5% pour tous les employés de la ville. 6% ma femme cette année, me dit Zoltar. 6% Kashi le gnome, qui est peut-être la femme du coup de Zoltar. Eh ben, 7% Chronos. 20% me dit Snoop, mais parce que j'ai démissionné pour un autre poste. Ça, c'est autre chose. T'as renégocié, quoi. Eh ben, donc il y a des gens qui sont augmentés dans ce pays, alors. Et moi, ben, moi, zéro. Service public, c'est un petit peu contraint, là. Donc, c'est zéro, hein. C'est zéro. Ok, d'accord. Bah, juste, c'est pour un ami, vous pourriez m'envoyer les gens qui sont à 7%, là. C'est pour un pote. Vous pouvez m'envoyer juste en DM le nom des entreprises. Juste, c'est pour un copain. Voilà. Donc voilà pour Luma le regard sur ce conflit en Grande-Bretagne. Et maintenant, on va parler de la Chine parce que c'est passionnant. Ah, il y a Worms qui a été augmenté de 15%, mais de 15% de charge de travail. Ah, il y a AEG qui dit attention, on est un jeudi 11h24, il y a une bonne partie de télétravailleurs, sans doute beaucoup de cadres. Okay. Ah, dis donc. Eh ben bravo, eh ben tant mieux, j'ai envie de dire. Là, on va parler de la Chine, je trouve ça. Moi, c'est l'article qui m'a le plus passionné ce matin. Ah, ce truc sur la Chine. Onizara, merci pour le troisième mois d'abonnement. J'ai bien envie d'aller me chercher un petit café pour vous mettre du suspense, tiens. Parce que pour moi, c'est le meilleur article. Oh, je vais faire ça. Tiens, moi aussi, je vais m'augmenter. Je vais balancer une petite page de pub. Je vais vous envoyer une petite page de pub. Sauf pour ceux qui sont abonnés et qui sont sub, vous aurez de la musique. Mais. Et après, je vous lis ce papier que je trouve passionnant sur la jeunesse chinoise. Allez, je m'augmente. J'ai tout cassé dans mon. Ah, j'ai tout cassé. Ouf, j'ai failli tout casser. Ok, donc, c'est parti. Hop, petite pause musicale. Est-ce que c'est bien d'abord ça? Je ne vais pas vous mettre n'importe quoi quand même. Ouais, c'est cool. C'est très cool ça. Ok. Petite pause musicale pour les abonnés. Petite page de pub. Ne m'en voulez pas. C'est ma petite augmentation à moi. Et puis je vais me chercher un petit café. Ok. À tout de suite. Et puis après, on parle de la Chine. On va se régaler. À tout de suite. Bisous. Prenez soin de vous. Je reviens. Smile. C'est quoi cette musique là? Wow. C'est des gens qui ont pris trop de LSD, ça, non? Un petit peu, non? Ouh là 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 là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouh, c'est de la musique de qui nous vient de où ça? C'est de la musique sous champignons hallucinogènes, ça, ou je m'y connais pas. Ah, bon, pas de champignons hallucinogènes ici. Ici, on est au café au lait. Au café au lait. Alors, il y a David Lefort, notre spécialiste science sur France Info, qui vient nous expliquer il y a deux jours, je crois, trois jours, que il fallait pas mettre de lait dans son café. Alors, c'est pas l'histoire de la digestion, soi-disant que c'est pas facile à digérer. Et voir que ça fait péter. Voilà, décidément, je parle beaucoup de prout ce matin. Et non, en fait, c'est parce qu'en fait, le lait, c'est des scientifiques qui viennent de prouver que le lait dans le café enlève tout ce qui est bon dans le café. Alors, pas la caféine, mais tous les trucs, il y a des trucs qui sont très bons pour la santé dans le café. Il ne faut pas mettre de lait. Pfff. Ouais, mais alors, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Moi, je kiffe. Ça me met petit bonheur du. Voilà, c'est un petit bonheur dans ma vie, quoi. Un petit peu un nuage de lait, petite mousse de lait, là, façon Starbucks, façon fait à maison, quoi. Oui, alors oui. 56 patato, les ribots a raison. Avec du lait végétal, il y a plus de soucis. Il faudrait mettre du lait végétal. Ouais. Il faut que je me mette au lait végétal. Oh, d'ailleurs, c'est une vraie question là, je suis super sérieux. Alors, il faudrait que je remplace mon lait de vache par du lait végétal. Et là, pour ceux qui s'y connaissent un peu là, dans ces trucs là, quel est le meilleur lait végétal à mettre dans le café, sachant, là je vois lait d'avoine. Mettez-vous d'accord, je vois lait d'amande. Parce que je m'y connais pas. Avoine, lait. Alors c'est parti. Attendez, lait d'amande. Ah mais mettez-vous d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes énervant. Hein. Amande, lait végétal. La marque Oatly est spécialisée dans le lait végétal pour les cafés. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci Marteau. Attends, comment t'écris ça? Oatly. Oatly. Entreprise suédoise. Produisant des aliments pour vegan. Hop, 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 hop. Boisson à l'avoine barista. Ouh là 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 là, merci. Ok, ok. Noisette, lait de soja, lait de riz. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Avoine, lait d'avoine, lait d'avoine, no hésitation. Lait d'avoine, avoine. Le lait de foin, c'est le must. What? Non, le lait. Non, il y a Usul qui dit le lait de bœuf. Non, j'ai arrêté. J'ai goûté une fois. Ah, Berk, c'est très. Le lait de bœuf. Ouais, c'est le lait de taureau, c'était moi, c'est le lait de taureau. J'ai pas aimé du tout, c'est un goût. Ah non, dans mon café. Le lait. Bon, beaucoup de lait d'avoine quand même. Hein. Lait d'avoine. Comment ça, c'est pas du lait, le lait de bœuf? Si, bah si, si. Bah si, on m'en a servi moi une fois. Du lait de bœuf. Hein? Ouais. Ouais. Le lait d'épeautre. Ouais. Ok. Ok. C'est très perso, il faut que j'en teste plusieurs. Oh là 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 là, mais moi j'ai une solution, moi. Le lait d'avoine a un indice glycémique horrible. Ah oui, mais c'est pas bon pour moi, ça. Vu que je fais du bide. De votre faute, d'ailleurs, parce que comme à cause de Twitch et du stream, j'ai arrêté le sport, donc si je joue. Je vous rappelle que si vous me croisez sur la plage cet été avec un gros bedou, bah c'est de votre faute. Ce sera de votre faute. Voilà. N'oubliez jamais ça. Que si mon corps est en train de changer, de ressembler de plus en plus à une goutte d'eau comme ça, c'est à cause de vous. Ça c'est Twitch. Je remercie Darth Aliot pour le 6e mois, Onizara pour le 3e mois, voilà, qui vont me permettre d'acheter du lait d'avoine. Allez, on part en Chine. Je vous emmène en Chine. C'est parti. Cette jeunesse qui s'éloigne du rêve chinois, j'ai trouvé ça assez passionnant. Les mobilisations contre la stratégie zéro Covid ont mis en lumière le mal-être des jeunes en Chine. Depuis deux ans, le mouvement Tang Ping, restons couchés, SM en Chine, et remet en cause le modèle de développement. Alors, ce que j'apprends et qui me surprend et que je trouve génial, le terme Tangping a d'abord connu une popularité parmi la communauté de joueurs en ligne réunis autour du jeu League of Legends. Tout est parti autour de LOL. J'ai déjà la souris. J'ai le clavier. LOL, là. J'ai le tapis. Ça part de LOL, ça part du gaming. Hein, voilà. Ceux qui restent couchés sont ceux qui abandonnent le champ de bataille virtuel pour effectuer des missions plus faciles dans LOL. Face à une société extrêmement connectée, le terme a très vite dépassé ensuite le cercle des joueurs invétérés. Jean-Louis Roca, interrogé par Luma, y voit une critique de la réussite à tout prix en Chine. C'est la Chine qui refuse de se lever pour le métro, boulot, dodo. C'est les gamers, c'est précurseurs, comme écrit quelqu'un dans le chat. En clair, celle qui ne veut plus suer sang et eau comme les parents, alors que la progression sociale, qui assure la stabilité politique du régime, est mise à mal par le ralentissement économique en Chine. Le terme d'involution, c'est ici parmi les tendances sur Weibo, qui est le Twitter chinois, ces deux dernières années. Il recoupe à la fois un sentiment d'inutilité de cette lutte acharnée pour la réussite, alors même que la jeunesse connaît une précarité croissante, de plus en plus de chômage parmi les jeunes chinois. Née après les réformes initiées par l'ex-président Deng Xiaoping, la nouvelle génération questionne le sens de la compétition et pour le statut social en Chine. C'est la culture du... J'apprends un truc. C'est la culture du 996 qui pose problème, soit le travail de 9h du matin à 9h le soir, 6 jours par semaine. 9, 6... 996, 9h le matin, 9h le soir. À mon avis, la pause déjeuner ne va pas être très longue. Et ça, 6 jours par semaine. Il y a des suicides, mais on n'en parle pas. Pour moi, le système est à bout, explique une jeune ingénieure de 27 ans qui se reconnaît dans ce mouvement « restons couchés ». Je veux travailler juste ce qu'il faut pour vivre, voilà, dit cette jeune femme, qui a fait des études brillantes, pourtant qui est ingénieure. Du patronat au monde de la recherche, les tribunes se sont multipliées en Chine ces derniers temps pour dénoncer ce mouvement, ça fait un peu flipper. Pour dénoncer les partisans du restons couchés qui ne joueraient pas le jeu du développement et à terme du dépassement des États-Unis, puisque l'ambition du régime chinois c'est de devenir la première économie mondiale devant notamment les États-Unis. Une question de nationalisme donc. Dans Kyushu, qui est la revue théorique du parti, Xi Jinping, qui est le patron hein, en Chine, qui est le numéro 1 chinois, lui-même évoquait le mouvement « Une vie heureuse est atteinte par la lutte », dit-il. En arrière-plan, c'est la poursuite du rêve chinois, donc de l'identification à un destin collectif, dont il est ici question. Les nouvelles aspirations de la jeunesse font craindre la montée d'une défiance vis-à-vis de toutes les formes d'autorité. On en est encore loin, mais l'insistance sur les valeurs traditionnelles et patriotiques dit l'ampleur du défi posé au pouvoir central. Poloche sans gêne écrit dans le chat à l'instant, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'on va assister à la fin du système sociétal chinois dans les prochaines années. Ça n'est pas impossible. J'aime les stats et très inquiet. J'espère que Bruno Le Maire ne va pas lire la presse. Ça pourrait lui donner des idées. Ah, tu parles du 996. Qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution-là, de la jeunesse chinoise ? J'ai vécu 5 ans en Corée du Sud à parfois 90 heures semaine. C'est pas une vie. So 08, t'as fait des semaines à 90 heures. Waouh. Elune Lastra écrit, j'ai vu un reportage qui en parlait, Sam. Il y a une composante qui implique la politique chinoise de faire monter en compétence la jeunesse, sauf qu'il n'y a pas de travail disponible pour ces très diplômés. Hein ? En France, on a plutôt la culture 8-6, dit Octop. Mais enfin, on t'exagère un petit peu quand même. C'est plus 6-6-7 en France. Comment ça ? Ah bah non, 6-6-7 en France, ça ferait 6 heures du matin, 6 heures le soir et 7 jours par semaine. Pierrot Pouvoir, on travaille pas 7 jours par semaine. Tu n'as pas bien compris le concept du 996. Tu n'as pas bien compris, Pierrot Pouvoir. Je trouve que tu t'es un petit peu emmêlé les pinceaux, si je puis me permettre. C'est-à-dire que si je te prends au pied de la lettre, on travaille plus en France qu'en Chine. Attention, Pierrot Pouvoir, tu n'as pas bien écouté. Hein, tu n'as pas... Désolé, excuse-moi. Gandalf en France, c'est 1664. C'est, tout le monde est parti. Ça y est, c'est tout le monde est parti. Non, c'est le 49-3, nous dit Dexter. Ça y est, chacun y va de sa petite blague. Ah, c'est, il me trollait. Poissman, je me suis absenté 5 minutes. J'ai raté quoi ? Ben, le meilleur article en fait. Il y a Poissman qui porte très bien son nom, qui s'est absenté 5 minutes et qui a loupé le meilleur article de cette revue de presse sur les tensions qui traversent la jeunesse chinoise par rapport au modèle économique dominant. Voilà, bah tu as tout raté, tu vois. Tu portes vraiment bien ton pseudo de poisseman. Bah oui, mais quelle idée aussi. Quelle idée. Oh là là, faites pas d'efforts non plus. Hein. Ah, c'est fou ça. Merci Claire Monod pour le 9e mois d'abonnement. Masco 279, merci pour ton prime aussi. Il y a Claft, et je crois que tu as raison, qui dit « Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la jeunesse de tous les pays. Notre génération a moins envie de dévouer sa vie au travail et préfère travailler moins pour donner du temps à d'autres choses que l'on juge plus important que monter sa vie autour de son travail. » C'est vrai. Je crois que tu as raison. Quels sont les chiffres de Samuel ? Oula ! Alors, dans les journées un peu folles, dans mes semaines et mes journées un peu folles, on serait sur du... Donc, je me lève à 2. Est-ce qu'on compte le lever ou est-ce qu'on compte l'arrivée au travail ? Allez, on compte l'arrivée au travail. Donc, ça va être 3 heures du mat. Ça, parfois, quand je fais question en plus de France Info, donc ça veut dire 19. Donc, c'est du 3-19. Et 7, puisque dans ces semaines-là, je suis avec Twitch, je suis souvent à 7 jours par semaine. Mais je stream plus trop le samedi. Donc, sans exagérer, j'ai des semaines à 3, 19, 6. Voilà. Puis j'ai des semaines plus cool aussi quand j'ai pas question pour un champion. Voilà, disons que j'enchaîne un petit stream après France Info, donc ça fait 3-13 au lieu de 3-19 déjà, c'est plus cool. Et 6 quoi. Ouais, ça va en fait, je suis un peu en pré-retraite. Hein. Je suis un peu en pré-retraite en fait. Hein. Je suis un peu je la coule douce. Hein. Hein. Il y a Poissman qui m'en veut pas de ma petite bêtise, qui dit Samuel a des semaines à 70 heures. Sauf que c'est pas du travail. France Info, je kiffe. Question pour un champion, je kiffe. Et avec vous, c'est encore plus top. Donc, en vrai, comme dit Aquamarine, j'en fous pas une.
Exactement. Exactement.
Intéressant hein, ce qui se passe en Chine. Là. Les jeunes Chinois, ils veulent plus bosser comme avant.
Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ?
Si tu n'avais plus question pour un champion, tu chercherais à faire quoi pour compenser ou tu compenserais pas justement ? Je ne veux pas perdre question pour un champion, je kiffe question pour un champion, je ne veux pas qu'on m'enlève question pour un champion. Il n'y a aucune raison qu'on m'enlève question pour un champion. Ça cartonne ! Les audiences augmentent tous les ans depuis 7 ans, donc tout va bien de ce côté-là. Et puis je kiffe ce jeu, quoi. Non, c'est pas question pour un champion que je veux arrêter, moi. Non, vous êtes fous, quoi. Attendez, moi je veux faire ça jusqu'à la retraite. Hein. Hey, j'adore question pour un champion. Je veux pas arrêter question pour un champion, moi. Neferi, merci pour le 16e mois d'abonnement. Diostand, merci pour le Prime. Alors, anomalie, je n'ai absolument pas mis de jaune et de fluo sur cet article. J'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps, mais j'ai tout lu quand même. Et c'est intéressant. C'est une question de sous-sous et d'énergie. Ah, vous savez qu'en France, on a été protégé de la hausse des tarifs de l'énergie, du gaz et de l'électricité par ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire. Hein. Que la plupart de nos voisins européens n'ont pas eu, hein, à condition bien sûr d'être abonné à un tarif réglementé et de ne pas avoir cédé aux sirènes de la concurrence du privé où là vous avez pris l'augmentation plein pot. Donc le problème c'est que ce bouclier tarifaire il ne va pas durer 107 ans et ben, ça va finir par augmenter. Cet article parle de ça. À quoi faut-il s'attendre en 2023 ? À partir du 1er janvier. Ah oui, c'est dans 15 jours en fait. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu 2023, bah oui, je suis con là. À partir du 1er janvier pour le gaz et du 1er février pour l'électricité, ouf, un mois de plus, les tarifs réglementés vont être augmentés de 15%. Eh bien oui. En France, ce qui suscite l'inquiétude de nombreux ménages, et vous aussi, je vois bêta version Marion, je sens l'anxiété qui arrive. S'en rendent-ils compte ? Les Français ont sans doute été le peuple le plus protégé au monde face à l'inflation des prix de l'énergie. On va rappeler que depuis février 2022, la hausse des prix de l'électricité a été bloquée à 4% en France. Je pense qu'on est les seuls au monde à avoir payé aussi peu. Tandis que les tarifs du gaz ont été gelés depuis octobre 2021. En comparaison, les Allemands, les Belges, les Hollandais ont vu leurs factures énergétiques doubler en Grande-Bretagne. Ça a été de la folie aussi. Voire tripler. Sur la période. Au Royaume-Uni, voilà, l'inflation a atteint un tel niveau, avec des tarifs réglementés qui ont augmenté de 130% sur un an. Nous, c'est 4%, les gars, 4%, 130% en Grande-Bretagne. que ça a conduit à un gigantesque mouvement de protestation incitant les ménages à ne plus payer leurs factures. Vous avez des ménages, vous avez des familles britanniques qui ne payent plus leurs factures en disant votre augmentation, vous la carrez au... Voilà. Ah, très bonne question de Gerner DB qui dit, mais du coup, c'est qui paye la différence ? Très bonne question, très bonne question. On va en parler. L'an prochain, les Français vont rester protégés, mais dans une moindre mesure. Le projet de loi budgétaire 2023, qui passera en dernière lecture là, aujourd'hui, à l'Assemblée, s'apprête à entériner définitivement le principe d'un relèvement du bouclier tarifaire. Donc j'ai une bonne nouvelle, c'est que le bouclier ne va pas disparaître. C'est une mauvaise nouvelle, c'est qu'il va être moins bouclier, ce bouclier. On me dit qu'en Belgique, certains tarifs ont quintuplé, x5, me dit la fée verte. À partir du 1er janvier, donc pour le gaz, et un mois plus tard pour l'électricité, les tarifs réglementés, moi je suis au tarif réglementé, je ne suis jamais passé la concurrence, je ne suis pas fou, pourraient être augmentés dans une limite fixée à 15% par rapport au niveau actuel. Concrètement, sur la facture, ça donnera quoi ? On va dire pour un ménage moyen, avec une conso de 5000 kWh par an, on aura une hausse de 130 euros par exemple. On va dire qu'une famille qui paye 890 euros d'électricité va payer quand même 130 euros en plus. Voilà. Pour le gaz, pour une famille moyenne, on va dire, qui consomme 11 200 kWh par an, qui a une facture de 1250 euros, eh bien, là, bah, ça fera 150 plus 30, 180 euros par mois en plus, par an en plus. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des trucs moyens. Ça va dépendre de plein de choses, de la taille du logement, des modalités de chauffage, de l'isolation de votre logement, etc., etc. Évidemment, ce ne sont que des moyennes, mais préparez-vous à payer un peu plus cher à partir de janvier, février. Et puis, il y a aussi tous les ménages qui ne disposent pas d'un contrat auprès d'un fournisseur historique, un contrat dit réglementé. Donc là, il n'y a pas eu tellement de boucliers tarifaires. Peut-être que certains dans le chat... merci Antoche pour le gentil message, qui sont concernés. C'est en effet ce qui s'est produit cette année pour de nombreux clients qui étaient chez ces opérateurs alternatifs et qui du coup sont repartis chez EDF, entraînant au passage le retrait même du marché de certains opérateurs alternatifs qui ne gagnaient plus assez de sous, voire pas du tout. Même moins protecteur, le maintien d'un bouclier tarifaire demeure une bonne nouvelle pour les ménages français, écrit Lacroix. Depuis des mois, le gouvernement se félicite d'avoir été un des premiers à protéger ses citoyens contre la hausse des prix de l'énergie, ça c'est vrai, permettant de contenir l'inflation en France. Avec l'inflation est moins forte en France que chez nos voisins européens, notamment parce que les prix de l'énergie ont été comme ça encadrés par ce bouclier tarifaire. Mais quelqu'un dans le chat disait, mais c'est qui paye la différence ? Très bonne question. Reste que cette stratégie n'est pas exempte de critiques. Certains observateurs s'inquiètent notamment de voir l'argent public se diriger massivement vers les ménages plutôt que vers les entreprises, à la différence notamment de l'Allemagne. D'autres regrettent que les milliards investis pour protéger temporairement le pouvoir d'achat ne l'aient pas été pour des solutions plus durables. Au total, on estime que le bouclier tarifaire et les mesures associées, ristournes sur le carburant notamment, vont coûter 100 milliards d'euros sur la période 2021-2023. J'ai en tête le chiffre des retraites. Les retraites par an, ça coûte 320-330 milliards, on disait tout à l'heure. Et là, les ristournes là, sur l'énergie en France, sur la période 2021-2023, c'est 100 milliards quand même. Autant d'argent qui aurait pu servir à financer des mesures plus pérennes de transition énergétique. Voilà. C'est pas inintéressant, hein. Donc effectivement, on est beaucoup mieux protégé que nos voisins européens notamment, mais à un moment, il faut bien que quelqu'un paye. Donc cet argent, quelque part, c'est ou de l'argent qu'on va prendre quelque part, ou alors c'est de l'argent qu'on ne va pas dépenser sur d'autres trucs, évidemment. Il n'y a pas de miracle non plus, on n'est pas des magiciens les Français. Même si on essaie de choper une troisième étoile dimanche à 16h. Voilà, Skinner du coup écrit, le problème c'est que ces solutions sont des pansements à court terme pour faire croire que le gouvernement fait le bien des Français. Tu as le bouclier que si tu es chez EDF. Pour l'électricité, normalement, oui, il n'y a que les opérateurs historiques qui peuvent te proposer ce qu'on appelle un tarif réglementé. Sachant que, attention, les opérateurs historiques peuvent aussi te proposer des tarifs qui ne sont pas réglementés, qui sont des... en te disant, oui, alors c'est un tarif un peu plus libre, ils font une petite ristourne au début, puis ils te disent, bon, bah, ça va épouser justement les cours du marché, et quand ça va baisser le prix de l'énergie, bah, vous paierez moins cher. Et puis, ce qu'ils ne te disent pas trop, c'est que quand ça va... quand les cours augmentent, tu vas payer plus cher aussi. Donc attention, parce que je crois de mémoire que les opérateurs historiques peuvent aussi te proposer des tarifs qui ne sont pas réglementés. Moi, je suis full tarif réglementé depuis toujours. Je n'ai jamais cru aux sirènes de la concurrence là-dessus, quoi. Et je ne le regrette pas. Ce sera beau quand tout ça, ce sera full libéral, me dit quelqu'un dans le chat. Oui, comme tu dis, comme tu dis. Comme tu dis. Ouais. Exactement. Ouais. Ah ! Il y a King Julian Z qui me corrige et qui me dit que Engie et Total Energy proposent aussi un bouclier tarifaire. Ah, peut-être. À vérifier, à vérifier, à vérifier. À vérifier. Ok. Delwise, merci pour cet abonnement. Merci pour ton soutien. Et Nicro aussi. Merci pour ce quatrième mois d'abonnement. Bon, je me régale avec vous comme chaque matin. On est en train d'atteindre la fin. Le dernier article, c'est pas possible. 1h49 de stream, on va pas faire un stream 1h49. Après, je vais répondre à d'autres questions sur l'actualité. Vous allez me proposer d'autres sujets d'actualité. On va creuser ça ensemble. Ce n'est pas possible. Quoique celui sur la fusion nucléaire, là, il va peut-être nous prendre un petit peu de temps parce qu'on va aller gratter un petit peu des infos. À chaque fois que je lis ton pseudo, je dis quelqu'un dans le chat dit que, parce que je n'arrive pas à lire ton pseudo. I got do Seb Bayou. I got do Seb Bayou. C'est illisible, chouchou. Donc, ad vitam aeternam, tu seras, quand je te citerai, quelqu'un dans le chat a dit. Voilà, c'est comme ça. Hein, tu peux pas t'appeler Patrick comme tout le monde. Hein, Patrick, ou Marc, hein, ou je sais pas, ou Marie. Voilà. Ou. C'est I got dosed by you. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pas une cochonceté au moins? C'est pas un truc de coquin, ça. C'est pas un truc cochon, pour dire les choses. I got dosed by you. Non? Dites-moi, ça veut dire quoi? Je suis bilingue, je le sais, en fait, mais c'est juste pour vérifier que vous le sachiez aussi. I got dosed by you, ça veut dire quoi? Les Red Hot? C'est un rapport avec les Red Hot? C'est ça? C'est quoi? Vous savez pas, en fait? Vous ne savez pas, c'est une chanson. Si c'est une chanson des Red, j'adore les Red Hot. C'est les Red Hot. Alors c'est parti, les Red Hot. Alors, I got dosed. Je l'ai pas. Ça n'existe pas. Allez, si, vous trouvez. Ah, c'est dosed. La chanson. Ah, tu m'as saoulé, ça veut dire. Ouais, je savais. Je savais que ça voulait dire ça. Je savais que ça voulait dire ça. Tu m'as saoulé. D'ailleurs, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est un peu secret, mais c'est moi qui ai écrit cette chanson.
Je suis en stream, virgule, puis-je te rappeler d'ici une demi-heure pour interrogation.
J'ai un message urgent, là. Je dois rappeler tout de suite, mais bon, je préfère discuter avec vous. C'est libre de droit. Bah oui, c'est moi qui ai écrit cette chanson. Je fais ce que je veux. Hein ? Voilà. Allez, on parle un peu de la fusion nucléaire. Ça vous va, la fusion nucléaire? C'est assez intéressant. Alors, on va creuser un petit peu parce qu'il va s'agir de vous dire de quoi il s'agit exactement. C'est des scientifiques américains qui ont fait un truc de fou, là. Et la presse française, on n'a quasiment pas parlé. Là, on a un édito de l'Opinion, donc le journal, qui dit que c'est formidable. Mais avant de lire l'opinion de l'Opinion, pour ceux qui suivent sur ce sujet, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la fusion nucléaire. Fusion nucléaire. Alors, ça se passe aux States. Et actualité, bim, 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 petit article de qualité. Je vois que France Info a fait un truc. Ouais, merci France Info, let's go. Fusion nucléaire. 5 questions sur l'avancée scientifique majeure qui suscite beaucoup d'espoir autour de cette énergie du futur. Elle est considérée comme une future alternative aux centrales actuelles capable de produire une énergie abondante, what ? Et décarbonée, yes ! Mais rendre cette solution viable à l'échelle industrielle prendra des décennies. Ça va, des décennies, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose, selon un responsable scientifique. L'énergie des étoiles, waouh, bientôt maîtrisée par l'homme. Des scientifiques américains et le gouvernement des États-Unis ont annoncé mardi, avoir réussi une percée majeure dans le domaine de la fusion nucléaire. Cette prouesse se retrouvera dans les livres d'histoire, a même estimé la ministre de l'énergie américaine. Les Américains qui assurent pour la première fois, donc c'est les premiers à l'avoir réussi a priori, à avoir produit en laboratoire davantage d'énergie que celle utilisée pour provoquer cette réaction de fusion nucléaire. Parce qu'évidemment, si tu utilises plus d'énergie pour provoquer cette réaction que tu n'en produis, c'est un peu moins intéressant sur un plan énergétique. C'est la puissance du soleil, comme le disent certains dans le chat. C'est quoi la fusion nucléaire ? On est sur France Info, on vous explique tout ça bien. C'est la force du service public, baby. Dans les centrales nucléaires actuelles, la technique utilisée est celle de la fission. Il ne faut pas confondre fission et fusion. Elle consiste, donc cette technologie, à casser les liaisons de noyaux atomiques lourds pour produire de l'énergie. Tu casses, puis ça pète, quoi, et ça fait de l'énergie. La fusion nucléaire, c'est le processus inverse. Il s'agit de faire fusionner deux atomes légers, de l'hydrogène, je crois que je vous résume ça assez bien, comme ça, avec ce petit mouvement hop, des mains, pour en créer un lourd, l'hélium, action qui produit 10 fois plus d'énergie que l'autre technique. Ce procédé se retrouve dans les étoiles, comme le Soleil. La fusion y est possible dans notre étoile, par exemple, en raison d'une température gigantesque, 15 millions de degrés, ce qui est très chaud. Et dans une pression extrême. Voilà. Alors, une petite vidéo. Hein, une petite vidéo du commissariat à l'énergie atomique. Bon, on va regarder ça. Hein. Super musique. Génial. Ok, donc il y avait un ingénieur qui avait un synthétiseur, bon tant pis, qu'il avait eu quand il avait 8 ans et qui a fait la musique du truc, quoi. Enfin bon. Fusion. Ça, c'est une alliance, je connais.
En comprenant la source d'énergie du soleil, l'homme a constaté l'incroyable pouvoir de la fusion pour gouverner les astres qui illuminent le ciel. Okay. Aujourd'hui, il imagine et il construit son avenir en explorant les possibilités que cette réaction...
Je ne vois pas ce que cette alliance... Viens faire aussi histoire. Enfin bon.
...pourrait lui offrir sur Terre. Mais commençons par le commencement.
Oui, s'il vous... Oui, merci.
Dans l'univers, la matière existe dans bien des états.
Ouais.
Des états qui changent avec la température. Si on lui apporte assez d'énergie, un corps solide peut ainsi devenir liquide.
Oui. Oui.
Puis gaz.
Oui.
Ou même plasma.
Ça, c'est le truc d'après, ça. Ok.
Et alors, on parle de plasma lorsque les électrons sont libérés de l'attraction des noyaux atomiques.
Ah.
Les noyaux sont constitués de protons et de neutrons, soudés par une énergie colossale, l'énergie nucléaire.
Ah ouais.
Il existe plusieurs façons de libérer cette énergie.
Alors ?
Comme la fission...
Ah.
Utilisée dans les réacteurs nucléaires et dans laquelle un noyau lourd se scinde en deux,
ouais.
Et la fusion, qui assemble deux noyaux légers. Ah. Pour fusionner, il faut que les noyaux se rencontrent. Les neutrons n'ont aucune charge électrique, tandis que les protons ont une charge positive. De ce fait, l'ensemble du noyau est chargé positivement. L'interaction nucléaire, n'agissant qu'aux très courtes distances, il est difficile de faire se rapprocher deux noyaux, comme il est difficile de réunir les pôles positifs de deux aimants.
Ça, j'ai compris ça.
Pour fusionner, il faudra donc que nos noyaux aient suffisamment d'énergie cinétique pour vaincre cette répulsion.
La vitesse.
L'énergie cinétique d'une particule dans un plasma est liée à sa température.
Ah.
Plus le plasma est chaud, plus les particules s'agitent et seront susceptibles de s'unir.
Malin.
Mais cela ne suffit pas. Ah. Il faut aussi que ce plasma soit dense pour augmenter les probabilités de rencontre.
Ah bah oui.
Dernière condition, avoir la bonne recette. Seules, certaines combinaisons de noyaux légers conduisent à une libération d'énergie nucléaire. Comme c'est le cas lors de la formation d'hélium par la fusion de noyaux d'hydrogène.
C'est bien, jusque-là je comprends quasiment tout.
Lorsque des noyaux sont confinés, cette énergie augmente la température du plasma et favorise la fusion d'autres noyaux. Pour s'auto-entretenir, ces réactions doivent dégager plus d'énergie qu'elles n'en ont consommé.
Ah bah oui.
Les conditions de fusion sont naturellement remplies dans les étoiles. Sur la Terre, l'homme explore toutes les pistes qui le conduiront à maîtriser cette source d'énergie à son profit.
Mais oui. Une question anodine comme ça, on risque pas de tout faire péter avec notre... Non, je sais pas, non. Bon.
Regardez le ciel. Vous voyez le rayonnement de la matière de l'univers.
Ouais.
La quasi-totalité de cette matière se trouve à l'état de plasma.
Ah. Vous saviez ça, vous ?
Chaque étoile est une énorme boule de plasma, essentiellement un mélange de protons et d'électrons, avec quelques traces d'éléments plus lourds. Lors de la formation d'une étoile, un gigantesque nuage de gaz s'effondre sous l'effet de la gravité. Il s'échauffe et l'étoile se met à briller, mais c'est un autre mécanisme qui assure sa longévité, la fusion nucléaire.
Ah, c'est les étoiles, quoi.
Dans les étoiles, la force qui permet la fusion est donc la gravité. Plus on s'enfonce dans l'étoile, plus les noyaux sont confinés et plus la température du plasma augmente.
Fait chaud.
Près du centre de l'étoile, la température approche 15 millions de degrés. La vitesse des noyaux devient suffisante pour déclencher des réactions de fusion qui libèrent l'énergie. L'hydrogène, c'est-à-dire le proton, est le carburant majeur des étoiles et sa fusion est le premier maillon de la chaîne de formation de tous les éléments de l'univers.
N'empêche que demain, tu me proposes un chauffage d'appoint à la fusion nucléaire. Je me méfie, hein, parce qu'à mon avis, ça peut péter, ça.
Il ne faut pas moins de 3 réactions successives pour former un noyau d'hélium à partir de noyaux d'hydrogène. La première étape implique la fusion de 2 noyaux d'hydrogène durant laquelle l'un des protons se change en neutron pour produire du deutérium avec émission d'un positron et d'un neutrino. Ce noyau de deutérium peut fusionner à son tour avec un nouveau proton pour créer un noyau d'hélium 3. Lui-même pourra fusionner avec un autre noyau d'hélium 3 pour former l'hélium 4, le plus courant dans la nature.
Oula, doucement là.
En fait, ces réactions sont assez rares. Chaque centimètre cube du Soleil ne dégage que 300 microwatts, moins que l'énergie dégagée par un être humain. L'étoile compense cela par son énorme masse. Un astre comme le Soleil convertit en son centre plus de 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde, soit autant d'énergie que celle contenue dans toute la population mondiale. Lorsque tout l'hydrogène est épuisé, une étoile peut encore fusionner l'hélium.
Là, en fait, j'étais bien concentré, puis là, ils m'ont perdu, là. Quand ils ont commandé des chiffres, là.
En carbone. Et si elle est assez massive, elle peut former des noyaux plus lourds, jusqu'au fer. Au-delà du fer, les réactions consomment plus d'énergie qu'elles n'en produisent. L'étoile s'éteint alors par manque de combustible. Privée de la source d'énergie qui s'opposait à la gravité...
Enfin, va à l'essentiel, chouchou, là. Par rapport à mon radiateur, c'est ça qui m'a... Ah, je vois ITER, là. Elle est trop longue, cette vidéo, c'est dommage, c'est passionnant. On se la continue un petit peu ou pas, hein? Parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est... Hein? Ouais, c'est... Hein? Ouais. Hein? Vous pensez quoi? Non, hein? Oui? Laisse? Oui? Allez, encore? Ok. C'est vous qui dites. Hein.
Le cœur d'une étoile, comme le Soleil, s'effondre pour devenir un astre dense.
Allez, on se reconcentre.
Une naine blanche.
Allez.
Pour les étoiles 10 fois plus massives, cet effondrement conduit à une explosion, une supernova qui dissémine dans l'espace toute la matière de l'étoile.
Bon, on a compris pour l'espace. Vas-y, envoie-nous le truc en France, là. Sur la Terre.
Si les noyaux d'hydrogène peuvent fusionner au cœur du Soleil, c'est grâce à sa température de 15 millions de degrés et à sa densité très élevée, près de 200 milliards de fois la pression de l'atmosphère terrestre.
On y arrive.
Comment produire sur Terre des conditions favorables à la libération de l'énergie de fusion ?
Quand même !
Il faut commencer par choisir les isotopes de l'hydrogène pour lesquels la fusion est la plus facile.
Mais va à l'essentiel.
Le deutérium, composé d'un proton et d'un neutron, et le tritium, composé d'un proton et de deux neutrons.
Tritium.
Leur fusion libère de l'énergie en produisant un noyau d'hélium accompagné d'un neutron célibataire. Mais où trouver cette matière inhabituelle ? Le tritium est un isotope d'hydrogène instable. La moitié des atomes de tritium se désintègrent spontanément au bout de 12 ans, ce qui explique pourquoi on ne le trouve pas dans la nature. On peut le fabriquer en bombardant du lithium avec des neutrons qui viennent casser ces noyaux pour produire du tritium et de l'hélium. Les futurs réacteurs de fusion utiliseront donc du lithium pour générer directement du tritium nécessaire aux réactions de fusion. Le deutérium, lui, peut être extrait de l'eau. Un litre d'eau...
Maintenant, je me rappelle pourquoi j'ai eu 6 sur 20 en physique au bac. Coef, gros coef, j'étais en série scientifique. 6 sur 20.
En contient 33 mg. Dans un réacteur...
Je ne comprenais rien.
...de fusion idéal, 3 litres d'eau fourniraient autant d'énergie que 1000 litres d'essence. ...80% de l'énergie libérée sera emportée hors du plasma par les neutrons issus de la réaction. Ils seront freinés et absorbés par les parois du réacteur, transférant leur énergie à ces dernières sous forme de chaleur. Comme dans les centrales classiques, cette chaleur servira à chauffer un caloporteur comme de l'eau qui fera tourner des turbines couplées au réseau électrique. L'hélium-4 produit par la réaction deutérium-tritium n'est pas radioactif. Par contre, les neutrons produits pourront activer les matériaux du réacteur. Le choix des matériaux est donc d'une grande importance pour imaginer une filière de réacteurs à fusion produisant peu de déchets radioactifs.
Je ne suis pas en train de regarder mon téléphone, je suis en train de regarder vos commentaires, parce que quand je mets une vidéo en gros plan, je ne vois plus le chat en fait sur mon écran de gauche. Et je vous lis sur le téléphone en fait. Je vous montre. C'est vous là, hein. C'est vous que je regarde. À la fin, il y a un terreau d'ailleurs, faites gaffe.
Mais comment réunir sur Terre des conditions propices à ces réactions de fusion ? Des conditions proches de celles des étoiles ?
Écoutez bien.
La première manière est de porter à très haute pression un petit volume de matière pendant un temps extrêmement court. On parle alors de confinement inertiel.
Confinement ? Encore ?
La seconde manière est de maintenir à très haute température un plasma à l'intérieur d'un volume donné en utilisant des champs magnétiques. On parle alors de confinement magnétique.
Encore le confinement.
Il est possible de réaliser une fusion d'atomes de deutérium et de tritium en les confinant dans de petites capsules sur lesquelles on fait converger plusieurs faisceaux laser pour former un plasma à des densités et à des températures très élevées.
Je ne comprends rien.
C'est l'enjeu de la fusion inertielle.
Je ne comprends rien.
On fabrique d'abord une capsule sphérique d'environ 2 mm de diamètre contenant quelques microgrammes de mélange de deutérium et de tritium. Puis, de gigantesques faisceaux laser viennent déposer à sa surface une puissance d'environ...
Alors, je vais vous faire deux choses. On va mettre le lien de la vidéo, là, parce qu'il reste encore 7-8 minutes. Là. Je vous mets le lien, quand même, pour ceux qui comprennent tout ça. Là. Et puis après, je vais demander à quelqu'un dans le chat de me résumer en une phrase, le truc, là, ou deux phrases. Là, quoi. En gros, faites-moi simple. Là. Voilà, je vous ai mis le lien, là, pour vraiment les gens qui maîtrisent. Moi, au bout de 3-4 minutes, j'ai perdu, quoi. Est-ce qu'on peut m'expliquer là, rapidement la fusion là, les gens un peu intelligents là. En gros, on fait chauffer. Merci Ronan, c'est gentil. Voilà. Merci Sivalion. Imagine un atome, une boule au milieu avec des petites boules qui tournent autour. Ok, ça je l'ai. Si tu chauffes suffisamment l'ensemble, tu peux séparer les petites boules de la grosse. Les petites boules se retrouvent expulsées, ça donne du plasma. Ok. Comment ça ne se résume pas en deux phrases ? Si, ce qui se conçoit aisément s'exprime... Non, ce qui se conçoit clairement s'exprime aisément. J'ai un prof qui disait ça. Alors, réglisse sans sucre, résume en une phrase, c'est pas gagné. Walt McCloud, c'est pas pour tout de suite. Tu prends deux atomes et tu les mélanges en... et boum, t'as une énergie décarbonée quasi infinie. Bah voilà, ça se raconte. J'ai un doctorat en fission nucléaire. Attention, on parle de la fusion là, les gars, pas de la fission. Hé, hé, Maori, tu ne suis pas quoi. Voilà, en gros, et paf, ça fait des chocs à pic, me dit Red Snowhoff. La vidéo ne parlait pas du tout de chocs à pic. D'accord. En gros. Tu demanderas à Jamy. Bah, je vais lui demander. Bon, revenons à l'article qui me semble un peu plus grand public quand même. Compte annoncer les scientifiques et gouvernements américains. Le cœur de l'annonce de cette semaine, là, du début de semaine, porte sur une expérience menée par les scientifiques américains en Californie, où se trouve le National Ignition Facility, qui est le plus grand système de laser du monde qui fait la taille d'un stade de sport. Waouh! Les chercheurs ont pointé le 5 décembre 192 lasers vers une cible de la taille d'un dé à coudre. Il a pris cher le dé à coudre, hein. Ils avaient placé une capsule minuscule en diamant contenant des isotopes de l'hydrogène. Les lasers ont donc produit une température avoisinant, c'est énorme, 150 millions de degrés. Là, t'as pas intérêt à passer devant, hein. Je dis ça. Provoquant la fusion des atomes d'hydrogène, d'où c'est cette image-là. Ok, d'accord. Avec cette fusion, les scientifiques disent avoir produit environ 3,15 mégajoules d'énergie, alors qu'ils en avaient délivré à l'origine 2,05. C'est ça la prouesse, en fait. Ils ont utilisé moins d'énergie qu'ils n'en ont produit. Voilà. Et ça, c'est une première. Un bémol, ah merde, 300 mégajoules d'énergie tirée du réseau électrique ont été nécessaires pour activer les lasers, et du coup, l'opération, elle est quand même déficitaire. Ah bah d'accord. Ah bah merci. Mais les scientifiques assurent que ce problème sera résolu à l'avenir. Ouais. Ok, bon. Pourquoi c'est important ? La fusion nucléaire est considérée comme l'énergie du futur. En fait, je fais le malin, mais vous êtes nombreux depuis un moment à me parler de ça, et j'avoue que je ne comprenais pas très très bien. Donc, grâce à cet article de France Info, tiens, je vous mets le lien aussi. Peut-être que je vais comprendre un peu. Là, on est en train d'arriver sur le cœur du truc. Tchac, tchac, je vous ai mis le lien. Ça, c'est le dossier de France Info. La fusion nucléaire est considérée comme l'énergie du futur, offrant de nombreux avantages potentiels. Elle ne produit pas de dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre, yes. Elle génère moins de déchets radioactifs que les centrales actuelles, yes. Elle ne présente pas de risque d'accident nucléaire. Ah, mais ça m'intéresse, parce qu'à un moment je me suis dit, mais ce truc, il risque que ça pète un peu, non? Si jamais il manque quelques lasers qui ne se déclenchent pas au bon moment, ou si jamais le confinement du plasma par le champ magnétique n'est pas parfait, eh bien la réaction s'arrête. Ah bon? Attends, c'est plus propre? Il n'y a pas de déchets, il y a moins... Il n'y a pas de gaz à effet de serre, il n'y a pas de CO2, et c'est sans risque. Bon, bon, bon. Il y a Poulet Fric qui écrit, c'est une vraie révolution. Grâce à l'énergie libérée, la fusion nucléaire pourrait régler une bonne partie des problèmes énergétiques à l'échelle planétaire. Des spécialistes espèrent qu'elle permettra de tirer un trait sur les énergies fossiles, on ne serait plus dépendant du gaz russe, pour une bonne idée, dont l'extraction et l'utilisation génèrent, et puis du pétrole de certains pays aussi, génèrent des émissions de gaz à effet de serre, ça on le connaît bien. Et donc ça nous permettrait de limiter la hausse des températures. Oh, folie. Je sens qu'il y a un petit bémol qui arrive. Quand pourrons-nous en bénéficier? Il va falloir patienter avant que cette première réussite en laboratoire ait des... C'est pour ça que je trouvais dommage que les médias, on n'ait pas beaucoup plus parlé cette semaine, vous voyez, parce que là, on a un tout petit édito dans l'opinion. Franchement, j'ai pas vu grand-chose cette semaine là-dessus. Quand est-ce qu'on va pouvoir en bénéficier? Il va falloir patienter un petit peu. Le chemin sera encore très long, disent les scientifiques. Peut-être 20 à 30 ans, mais 20 à 30 ans, mais c'est rien du tout. Des décennies, 50 ans, mais c'est que dalle à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Le gouffre qui reste à franchir concerne notamment la quantité d'énergie produite. D'accord. Il faudrait augmenter le gain d'énergie. Okay. De plus, la manipulation historique du laboratoire californien qui a pris plusieurs jours de préparation, elle devra être réalisée plusieurs fois par seconde pour arriver à une échelle industrielle. Ah, c'est passionnant. Ce qu'on peut anticiper, c'est une accélération des financements sur cette recherche grâce à cette expérience réussie, dit l'article. Ah, la France travaille-t-elle sur le sujet? Autre question intéressante. Merci à Tsédion qui vient de poster un bon résumé de l'opération. Merci à toi. Alors, est-ce que la France travaille sur le sujet? Oui. Deux méthodes sont explorées pour reproduire la fusion nucléaire sur Terre, le confinement inertiel avec les lasers à l'expérience de l'expérience américaine. La France dispose depuis 2014 du laser mégajoule situé à Le Barpe au sud-ouest de Bordeaux. Je suis passé devant une fois, je pensais que c'était une salle de jeu laser, les gens se tirent dessus, mais en fait pas du tout. Un bâtiment de 300 mètres de long et 50 mètres de haut l'abrite pour voir le jour. Ce projet à 3 milliards d'euros a réuni pendant 20 ans des centaines d'industriels et des milliers de personnes. Ça rigole pas, hein. D'accord. Et le confinement magnétique constitue la deuxième méthode pour produire la fusion nucléaire sur Terre. Et ça, c'est au projet, c'est au cœur du projet international ITER, dont régulièrement vous êtes très nombreux à me parler, qui est actuellement en construction dans les Bouches-du-Rhône à Cadarache. D'accord. Deux méthodes, ok. D'accord. 35 pays mobilisés dans le projet ITER. Union européenne, États-Unis, Japon, Chine, Corée du Sud, l'Inde, la Russie. 42 hectares, 2300 ouvriers depuis 2010, 20 milliards d'euros de factures. Le projet est prioritaire, ça je l'avais lu, c'est incroyable. Le projet est prioritaire au point que malgré la guerre en Ukraine, Moscou a envoyé vers la France récemment, ça je le sais, je l'ai vu ça, l'un des six aimants géants prévus. Pour ITER, là. C'est fou. La France se trouve... Ah oh, bah oui, quand on me dit, Samuel, tu nous rapportes jamais de bonnes nouvelles. Regardez ça. La France se trouve en pointe sur la fusion nucléaire en étant le pays hôte de ce projet pharaonique qui devrait se concrétiser en 2027. Oh, je sais ce qui va se passer. 35 pays collaborent. Mais c'est chez nous. À un moment, le truc va être au point. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est chez nous. On change les serrures. On change les serrures du bâtiment. Voilà. On se fait un trousseau rien que pour nous. Le truc, il est pour nous. Voilà. Et après, on a le truc tranquille, quoi. Voilà. Et après, on revend ça aux autres. Malin ! Ah, les Français. On est très forts. Bon, bah, j'ai tout compris. Ok. Exactement. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. On est malin, quand même. Alors, maintenant, on va pouvoir lire cet édito. Parce que l'opinion se félicite de tout ça. Et merci l'opinion d'en parler un petit peu. Fusion nucléaire, une claque aux adversaires du progrès. Les habituels pisse-froid, technosceptiques et autres abdètes de la lampe à huile étaient prêts. À peine la nouvelle d'une avancée scientifique majeure dans le domaine de la fusion nucléaire nous est-elle parvenue des États-Unis qu'ils déroulaient leur argumentaire fataliste. Ces dernières expériences n'est qu'une minuscule amélioration d'un précédent essai réussi, il faudra des dizaines d'années avant de produire de l'énergie avec cette technique. Cela fait des dizaines d'années que les scientifiques travaillent sur la fusion nucléaire. On est passé de à un cheveu du « ça ne marchera jamais ». Ces remarques sont pour l'heure factuellement justes, mais elles passent à côté de l'essentiel. La prouesse scientifique que viennent réaliser ces chercheurs américains est réellement susceptible de nous permettre de produire un jour, 20 ans, 30 ans, 50 ans, une énergie abondante sans générer de déchets nucléaires ni émettre de CO2. Car si les décroissants pensent que, parce qu'un défi technologique est immense, mieux vaut ne pas s'y attaquer, c'est parce que ce qui anime les chercheurs et innovateurs du monde entier, au contraire. En franchissant cette étape décisive, le labo californien apporte une validation déterminante pour les courageux startups qui se sont lancés à l'assaut de cette fusion nucléaire. Cette découverte promet donc de déclencher un nouvel afflux d'investissements, l'article de France Info en parlait aussi, vers ces projets. Aux États-Unis, ils ont déjà doublé les investissements cette année. Cette multiplication d'initiatives privées est notre seule assurance que la recherche fondamentale se transforme en recherche appliquée et que si les défis sont nombreux, ils seront tous relevés, n'en déplace aux rétifs au progrès. On est donc bel et bien plus avancé. Bon, écoutez, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est tellement beau que j'ai envie de terminer sur cette bonne nouvelle. Hein, cette bonne nouvelle. Vous en pensez quoi ? C'est quelque chose quand même. Hein, c'est quelque chose. Depuis le temps que certains me parlent dans le chat du lithium là, du projet ITER, là, ça y est, j'ai enfin compris à peu près le sujet, notamment grâce à cette vidéo là que j'ai bien tout compris les mots là. Ça fait rêver la fusion, clairement, me dit Spocktown. Vive la science, me dit Dr. Fucky Monkey. Et puis, c'est une dinguerie. Ce serait super. Hein. Voilà. Bon, pour une fois, je trouve une bonne nouvelle. Salut Defecator. Merci pour le 13e mois d'abonnement. Merci Douak. Merci Vulcanos. Merci GG, j'avais pas vu. Bah, GG à vous. Merci, vous êtes super sympa. Merci pour le soutien. Il y a Chopard qui dit en fait, il a rien compris. j'ai compris les grandes lignes. Hein, j'ai. Ouais. Ouais, j'ai compris. J'ai compris les grandes lignes, j'ai compris qu'il y avait un bon espoir quand même de voir cette fusion nucléaire demain nous donner de l'énergie à foison, propre, relativement propre, voilà, et non émettrice de CO2. Voilà. En espérant qu'on en fera partager toute l'humanité et qu'on ne se réserverait pas ça, seulement aux pays riches qui ont travaillé sur le projet. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a Lossic qui dit je travaille chez ITER et il y a Lino qui répond moi aussi je prends régulièrement le TER. J'adore. On pourra tous voler en jet ski, me dit Joe Panda fait des crêpes. Je crois que c'est la conséquence de ce qu'on vient d'évoquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Mathieu joue un peu pessimiste, ce sera toujours pour les riches d'abord. Oh, c'est l'histoire de l'humanité qui te fait dire ça. T'es pessimiste. Bon les amis, je fais un petit stream aujourd'hui parce que la semaine va être tellement chargée. Voilà. Hier soir, on a reçu Papsan à la maison. Samedi soir, des mois qu'on travaille là-dessus, on est en direct du Muséum de Bordeaux. Une nouvelle exposition Étienne après la Fondation Louis Vuitton, après le Louvre, le Musée d'Orsay. On s'est dit que ça faisait quand même pas mal de streams dans des musées à Paris. On va à Bordeaux, on invite Jamy, on va se régaler 20h, 23h. Je vous promets un joli moment. Tous ensemble avec les amis du Muséum de Bordeaux, on va visiter de fond en comble ce musée avec Joe à la réalisation et tout. On a mis des petits plats dans les grands de folie. Voilà, ça c'est samedi. Vendredi, n'oubliez pas aussi l'hebdo Étienne. Voilà, l'émission qui revient sur l'actualité de la semaine, 100% sport. Voilà, je n'ai pas regardé un seul match de cette Coupe du Monde. Je vais continuer jusqu'au bout pour les raisons que vous savez. Eh ben, c'est pas grave. J'invite des gens qui sont passionnés de sport. J'invite Johan Rioux, le journaliste de l'équipe, qui n'a pas loupé un match, bien sûr. Cécile Grec, qui est une passionnée de sport, qui est une spécialiste de rugby à France Télévisions. Sébastien Thomas, qui est un copain de France Info, qui est aussi un passionné de sport. Voilà, donc je les invite à la maison pour parler du mondial de foot, de la Coupe du Monde de rugby 2023. Ça va arriver très vite. Des JO de Paris de 2024 et puis de tout autre sujet de l'actualité qui va s'imposer à nous. Je vais demander à mes invités de quoi ils veulent parler. Donc ça fait déjà deux rendez-vous assez sympas et justement il faut que je bosse un petit peu sur ces deux rendez-vous là parce que tout n'est pas encore fignolé. Voilà, pas mal hein. Voilà, et puis bon bah maintenant on va faire un petit raid avant. Là, je vous cache pas que j'allais faire une petite siestoune. Parce que vous, je sais pas, mais l'hiver, ça tient un petit peu dur, quoi. Ça tient un petit peu dur. Voilà. Donc, on fait comme d'hab. N'hésitez pas à me proposer des petites destinations de raid maintenant, de gens qui sont en live. Allez, découvrons un streamer ou une streameuse que je connais pas, que j'ai jamais raid, quelqu'un qui a pas encore beaucoup de... Ben non, Paris Venzi, je le kiffe, mais il n'a pas besoin de nous. Un streamer qui aurait pas beaucoup de viewers ou une streameuse. Hier, avec l'ami Papsan, on a fait un raid vers une streameuse sud-coréenne, mais qui vit au Canada, je crois. C'était vachement bien. Elle était en plein live IRL. Donc, je vois déjà des propositions. Eh ben, ok. Allez, je vous mets une mini-pause. Je vous mets pas de pub, ceux qui sont pas abonnés, là, parce que je vous en ai calé une il n'y a pas longtemps. Je vous mets juste 2 minutes de musique pour tout le monde. Et dans 2 minutes de musique, par rapport à l'une de vos propositions, on fait un raid tous ensemble. À tout de suite. C'est quoi cette musique? Ça, c'est ça, non, ça. Alors, ça propose quoi? Salut casquette. Merci Papy Stream pour le raid. Nous aussi on s'apprête à faire un raid. Inside. Ok, j'ai trouvé. Ok. Les amis, j'ai trouvé la proposition, c'est grâce à vous. Je vais vous donner le nom de la chaîne parce que parfois quand vous regardez, vous êtes en mode viewer depuis un téléphone ou un iPad, le raid ne marche pas forcément toujours bien. Donc on va voir une streameuse, il y a 77 viewers sur sa chaîne. On est sur de l'art, on est sur de la peinture, du dessin, ça a l'air très sympa. Donc voilà, on va voir la chaîne de Une Petite Marie. C'est vous qui m'avez proposé dans le chat. Je vous souhaite une belle journée. Ne manquez pas l'hebdo Étienne 100% sport de vendredi soir. Ne manquez pas l'exposition Étienne en direct du Muséum de Bordeaux samedi soir. On va se régaler. C'est parti pour le raid, voilà, qui est en train de charger. Et puis soyez heureux et rendez les autres heureux autour de vous. Ouais. Et ce sera une belle journée. Attention, ça part dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 1, let's go! À très vite et je vous aime et merci pour ce matin.